dans le tempo, épisode 25. C'est parti. Bienvenue dans DLT, vous le savez, c'est le podcast des passionnés de musique. Certains disent même le seul podcast du monde. Donc, ouais. Si vous écoutez notre podcast, arrêtez. À part, peut-être, effectivement, si vous écoutez Six and Daz.
Ouais.
Ça, c'est pas mal. Tu connais ce podcast, toi ?
Je connais un petit peu, ouais.
Ouais,
ouais, ouais, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus. Il pourrait c'est mieux pas... faire.
Moi, il y a un mec Daz que je sais pas, tu vois.
Ouais, je l'aime pas. Je pense que c'est le pire des deux.
C'est pas ouf. Hein.
Je le déteste.
Ouais. Tu t'appelles comment, toi, déjà ?
Daz, mais aucun lien de parenté, du coup.
Écoutez, on reçoit, vous le voyez, Daz avec nous. Je suis content de te recevoir, mec.
Merci, merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir.
Tu vas être avec moi sur plusieurs épisodes.
Oui.
On va animer ça ensemble.
Oui.
Expert, en tout cas passionné de hip-hop.
Ouais.
De musique même en règle générale.
Oui aussi.
On peut le dire.
Ouais, mais plus hip-hop quand même.
Plus hip-hop quand même. Bah ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui on va parler de rap. Avec deux invités. C'est un même groupe en fait. Fellure et Andro. Alors, qui est Fellure, qui est Andro ?
Fellure juste là.
Fellure et Andro juste là. Andro.
Eh bah les gars, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci d'être là.
C'est un plaisir d'être ici.
Merci beaucoup.
On vous reçoit parce que vous êtes un groupe qui. Votre première release, c'est quoi ? C'est 2020 à peu près ? On est d'accord ?
2019.
Ouais,
ok. Ouais. Sur Spotify, je suis remonté jusqu'à 2020. C'est peut-être pas tout dispo sur les plateformes.
C'est possible que ce soit 2020.
Non, c'est 2020 en fait.
C'est 2020.
C'est 2020.
On est d'accord, c'est 2020.
C'est 2020.
C'est un moment gratuit, c'est le confinement.
J'ai bien travaillé.
C'est 2020, c'est ça.
C'est 2020.
2020, la deuxième.
Ouais, c'est ça, t'as raison.
Donc, artiste émergent, vous êtes rappeur pour Fellure, beatboxer, beatmaker pour Andro. Vous produisez de la musique, vous avez déjà un EP à votre actif, un album à votre actif, un EP qui sort bientôt aussi, si je dis pas de bêtises. Je suis bon là, jusque là.
C'est une mixtape, mais
c'est une mixtape.
Ouais, c'est bien.
Des morceaux de musique qui sortent.
C'est ça.
On est à peu près là-dedans.
Ouais, c'est ça.
On va parler en termes de projet.
Ouais, c'est ça.
On
parle en projet.
Et vous avez un profil assez intéressant, parce que je trouve assez révélateur de ce qui se passe un peu dans la musique aujourd'hui, et notamment des nécessités quand on est un artiste émergent, c'est que vous misez beaucoup sur les réseaux sociaux. Dans un premier temps. 100 000 abonnés sur TikTok, 50 000 sur Instagram, à peu près.
Beau chiffre.
Beau chiffre, pas mal.
Beau
chiffre. À côté de ça, vous avez une identité assez affirmée, c'est-à-dire que, clairement, quand on regarde ce que vous faites, on a un rappeur qui est prof de philo aussi. On a le beatboxer qui a d'ailleurs gagné quelques prix, un championnat de France en duo. On voit qu'il y a une espèce d'étiquette presque qui ressort. Et globalement, ça nous permettrait un peu de discuter de tout ça, de s'interroger sur comment on essaye de mettre en avant sa musique aujourd'hui. Est-ce que les réseaux sont une nécessité ? Comment on se présente ? Est-ce que parfois c'est ses limites aussi de s'accoler des étiquettes, même si on le fait soi-même ? Ouais. Donc j'aimerais bien qu'on discute de tout ça. Ça te parle un peu d'Az, l'artiste émergent ?
Mais bien sûr, artiste émergent, réseaux sociaux, TikTok, j'adore.
On est exactement dans le domaine de d'Az.
Incroyable.
C'est parfait.
Ce que je propose, c'est qu'on commence avec une première partie, peut-être sur les réseaux, précisément. Et notamment, alors je le disais, vous êtes fort sur TikTok, vous êtes fort sur Instagram. Est-ce que c'est clairement, vous avez commencé à monter un projet musical, vous êtes dit, c'est une stratégie, on a besoin d'être sur les réseaux. Comment ça s'est passé ? D'où est venue l'idée ? Pourquoi ?
Wow. En réalité, quand on s'est lancé sur les réseaux, on était signé. Et on était signé dans un label indépendant qui a pas mal poussé pour qu'on dynamise les réseaux, qui mettait beaucoup en avant le fait que les playlists éditoriales sur Spotify, Apple Music, etc., allaient regarder les chiffres en premier, que les bookers allaient regarder les chiffres, que tout le monde allait regarder les chiffres sur les réseaux. Donc, fallait qu'on dynamise ça. Et Antoine, Andro, il avait une petite expertise déjà des réseaux que moi j'avais pas du tout, du fait qu'il avait cartonné avec un autre projet sur TikTok déjà, où vous avez encore 600 000 abonnés.
Ouais,
ça avait cartonné fort. Et donc on est arrivé, on a mis nos idées en commun et on a fait quelques vidéos. On en a fait quoi, 4-5 au début.
Ouais, on avait 5.
Et en fait la première elle a direct cartonné. Donc on a regardé les streams en fait tout bêtement. Donc on a Spotify for Artists, on a les applications Apple Music, etc. Et on a regardé les courbes. On a dit bah manifestement ça fonctionne. Manifestement ça fonctionne. Un article sur Génération.
C'est... Très clairement il y avait ça se transvase un peu, c'est-à-dire que à travers les réseaux derrière en stream.
C'est immédiat.
Fait quoi fois.
On peut même pas. Non, fois plus. Fois plus. C'est indénombrable. C'est-à-dire que les courbes quand on a les. Enfin les courbes c'est.
C'est un mur en fait.
C'est un mur le bordel.
On en a fait une vidéo d'ailleurs sur TikTok où on passe la courbe derrière et en fait tu la vois elle est là elle fait ça.
et bam, d'un coup, elle monte plus haut que l'écran, en fait, parce que genre, vraiment, c'est... Ouais. Enfin, voilà, c'est... Ouais, ça a tout changé.
On a vu que, ouais, on a vu que ça dynamisait de ouf les plateformes, et on s'est dit, bah, on va continuer, en fait, on est capable de le faire, on a des idées. Andrew, il a énormément de compétences dans le montage, la post-prod, une bonne expérience déjà dans la vidéo que.
Alors,
que...
parce que ça, c'est un point intéressant. C'est-à-dire que c'est pas seulement un lieu de communication, genre, voilà, on va sortir tel truc, on va être tel jour en live ou je ne sais quoi. C'est vraiment, c'est presque un lieu de création pour vous, ces réseaux.
Ah ouais, carrément.
Et c'est pas juste un relais, en fait.
C'est ça, mais tu sais, parce qu'on connaît, il y a plein d'artistes où c'est juste, je fais ma com, entre guillemets. Mais vous, on voit vraiment...
Créer pour la plateforme.
Il y a de la création pour la plateforme.
Mais c'était une volonté, ça, c'est-à-dire se dire, on va faire du contenu spécifiquement et qui, derrière, peut nous amener du public?
Au début, ça va rejoindre un truc dont tu vas vouloir qu'on parle après, comme on l'a dit en off, mais c'est toujours... Il y a quelque chose d'assez... problématique en vrai quand t'es un artiste et que tu fais ça, parce qu'il y a un truc où tu dis ok, je vais faire un contenu extérieur, enfin un nouveau contenu pour ramener les gens sur mon contenu de base. Donc je vais normalement t'es sur les réseaux, les gens te suivent parce que tu fais, les gens viennent te suivre parce que tu fais quelque chose. Là en fait tu fais quelque chose pour que les gens viennent te suivre pour leur bicrave un autre truc. Et donc il y a un mouvement qui est un peu étonnant. Après on y a trouvé une plateforme d'expression qui nous a permis de dire plein de trucs qu'on n'aurait pas pu dire dans des sons. En fait, on a fait plein de vidéos sur la philo où qu'on n'aurait jamais foutu dans des projets, ou se raconter des histoires qui sont pas assez longues ou intéressantes pour faire un son, mais on en fait une vidéo de 20 secondes où je raconte que je me suis fait bolos par une meuf et je l'aurais pas forcément mis dans un, on n'aurait pas fait un son de 3 minutes dessus, quoi.
Mais il y a plusieurs avantages à ça. Déjà, moi j'avoue, c'est une passion de faire des vidéos, donc je suis trop content de pouvoir en faire. Et puis ensuite, quand tu fais du son et que tu dois te mettre sur les plateformes, en fait, sur TikTok surtout, t'as deux solutions. Soit tu changes ta musique, donc le cœur de ce que tu fais, pour qu'elle corresponde à TikTok. Soit tu fais du contenu à côté pour permettre aux gens d'aller voir la musique que tu fais et qui, elle, reste inchangée par TikTok, tu vois. Et donc nous, notre choix, ça a été de se dire, on change pas notre musique. Notre musique, elle reste celle qu'on fait. Par contre, on va faire du contenu qui va amener les gens à notre musique. Peut-être qu'on va en transformer un petit peu moins sur les gens qui vont arriver, mais en fait notre musique au moins elle reste inchangée par ce qui se passe autour. Et je crois que ça c'est une volonté qu'on a aussi, c'est de se dire que notre musique ne doit pas changer en fonction des réseaux. Alors bien sûr on va chercher des refrains efficaces et des choses comme ça, mais on veut pas se dire attends, il nous faut un refrain pour TikTok.
Ouais.
Il nous faut un truc pour TikTok et c'est cette liberté que ça nous octroie de pouvoir faire ces formats là. Et de pouvoir en plus s'engager sans pour autant faire du rap où pendant 3 minutes on va aller taper sur des trucs où parfois ça peut être un peu long et rébarbatif. Là ça nous permet en plus d'être un peu dans l'actualité, de pouvoir s'engager sans pour autant...
Ça veut dire que ce que vous faites sur TikTok, ça reste sur TikTok, c'est introuvable, vous le sortez. Ouais. Vous faites pas un best-of de nos meilleurs TikTok, tu vois, un truc comme ça.
Non.
C'est TikTok,
non.
Insta.
Exactement.
Ouais, ça reste sur les réseaux, il n'y a pas de. D'accord, enfin, ça sort pas.
Ça s'est posé parce que beaucoup de gens nous ont demandé sur Spotify, mais en fait, très rapidement, on s'est dit, en fait, non. Ce qu'on fait sur TikTok, c'est avec de la musique, on fait du contenu, mais on fait pas de la musique. Je crois qu'on est d'accord.
Vous considérez que vous faites pas de la musique quand vous faites vos TikTok?
Non, c'est pas le même travail.
On utilise un format musical pour faire du divertissement. Mais c'est-à-dire qu'en fait,
c'est-à-dire
que la prod,
c'est ça.
La prod, il va y avoir 5 pistes pas mixées, pas travaillées.
C'est enregistré à l'arrache, c'est pas réfléchi, on est que deux dessus. Enfin, c'est pas entre ça et un projet où tu vas en studio, tu réfléchis, tu réalises les morceaux, tu cherches des textures. On n'est pas dans... quand même pas dans ces logiques. Même sur les textes, moi je m'arrache les cheveux, je pourrais avoir des rimes en 3 pieds tout au long de mes 16. Et là, évidemment, il y a une exigence qui est moindre, où en fait on adapte le contenu à la plateforme.
Ouais.
Ce qui est marrant dans votre cas, et Daz, je suis sûr que tu as déjà vu ça aussi, parce que moi je l'ai déjà observé, c'est qu'il y a un truc presque générationnel. C'est plus seulement une nécessité, mais c'est même une forme de plaisir pour vous. Tu disais, Andro, moi j'aime faire des vidéos. Et je crois qu'il y a un truc de gens un peu plus touche-à-tout qui ont baigné aussi dans l'univers internet et qui d'une certaine manière ont du plaisir à créer du contenu internet, même s'ils font de la musique en parallèle, quoi.
C'est clairement la démarche là. Et je trouve que c'est justement une approche qui est super intéressante, quoi, de créer pour la plateforme, mais de pas devenir prisonnier de ce que t'as créé pour la plateforme et de te dire en fait non. Ça veut dire que effectivement il peut y avoir des déceptions du coup. Des gens qui vous connaissent pour vos formats TikTok, Insta,
exactement.
Ils arrivent sur Spotify, ils font ben c'est pas du tout ça, tu vois. et justement, comment vous le gérez ce truc-là? Est-ce que vous essayez de faire en sorte que quelque part ce que vous produisez sur les plateformes, ça transpire un petit peu dans vos prods sérieuse, je dis sérieux entre guillemets, hein, ou est-ce que vraiment vous êtes à 180 degrés, vous vous en foutez
Je crois qu'on s'en fout un peu et ouais. qu'en fait il y a mais que il y a une je crois que l'identité est la même en fait le ton est le même.
Ouais, ça reste vous, il y a pas de triche.
C'est-à-dire que le ton qui peut on a eu des vidéos qui étaient très tristes et qui enfin il me semble que dans la musique qu'on fait, ça va vraiment du drame à la satire quoi. Donc il y a des moments où c'est l'ironie et en philo on parle des Héraclites et Démocrite, il y en a un qui pleure, il y en a un qui rigole, les deux constatent que le monde c'est de la merde. Et il y en a un qui pleure, l'autre qui rigole quoi. Et c'est de dire en fait c'est un peu ça. Ouais. Parfois constaté avec tristesse et parfois avec rire, et en fait c'est ce double visage, il est déjà dans les vidéos et c'est ce qu'on essaye de mettre dans les sons. Donc j'ai l'impression qu'en fait si on nous suit on va pas être tant étonné, mais en effet on n'a pas pensé les sons, comme tu le dis, il y en a énormément qui doivent arriver qui se disent mais c'est pas du tout ce que je suis venu chercher. Et donc c'est aussi difficile de les transférer, c'est-à-dire que le transfert est pas aussi
pourtant c'était pas l'objectif.
En un sens ça marche, mais c'est pas la conversion à tout prix. On veut garder, et après chacun place son curseur où il veut, tu vois, sur à quel point il veut changer sa musique, et etc. Et nous, le truc c'est de dire on ne change pas notre musique, quitte à ce qu'on gagne moins fort, moins vite. On n'est pas là pour pour tout changer à tout prix.
Je l'entends bien, mais est-ce que, parce que on sait que la pratique musicale, c'est un truc en constante évolution, en tant qu'artiste, on apprend des différentes expériences, etc. J'ai du mal à croire que, en produisant autant que vous le faites, ça alimente pas aussi un peu à côté quand même.
Si, bien sûr. Oui. Moi, je pense que le plus gros truc que j'ai retiré de tout le travail qu'on a fourni sur l'année passée, c'est l'efficacité, en fait. Okay. C'est de me dire, avant, en fait, j'ai écrit 48 mesures. Mais en fait, on peut en couper la moitié, quoi, parce que la moitié sont pas assez percutantes, sont pas assez efficaces. Et sans forcément en termes de réseaux sociaux où il faut qu'il y ait un truc qui accroche, mais en fait, ça m'a fait me pencher beaucoup plus sur des détails et chercher plus d'efficacité dans le son sans forcément, enfin, sans faire un truc putaclic ou qui veut à tout prix aller chercher des nouveaux gens, mais faire plus attention à, plus de précision, en fait. En disant, avant, on est là, on écrit 64 mesures, on se dit, OK, bah, c'est très bien, j'ai un freestyle de 64 mesures et ça coule. Et en vrai, il y a la moitié des trucs qu'on comprend pas. Il y a une phrase sur deux, elle est un peu pétée. Et donc, ça permet de... Là, les derniers textes que j'ai écrits, ils sont beaucoup plus, je pense, les textes sérieux, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui sont destinés à être sur des projets, beaucoup plus chirurgicaux, en fait. Ouais. Avec le refrain, le post-ref et les couplets, ouais, beaucoup plus précis. Et donc ça, c'est extrêmement enrichissant, en fait, d'avoir fait ce travail continu de pratique qui apporte énormément dans une autre pratique.
C'est intéressant de voir que c'est pas seulement... Pour certains artistes, c'est une corvée, on peut l'entendre, de devoir communiquer, de devoir créer des choses en parallèle de la musique. Ils veulent dire, je fais que ma musique, c'est tout. Et vous, on voit que non seulement vous pouvez y trouver du plaisir à le faire, mais qu'en plus, ça peut enrichir votre démarche.
Ouais, ça permet d'évoluer. Hein.
Moi, j'étais pas convaincu au début. Hein. Ouais. On va se le cacher. Moi, c'était pas mon game. Tu vois mon téléphone. L'autre, il m'a dit, on va se mettre sur TikTok. Je suis là, qu'est-ce que tu me racontes? Pas du tout que nenni. Mais force est de constater que ça permet d'exprimer des trucs que tu peux pas exprimer dans des albums. Là, c'est tout con. Je suis allé capter une meuf à Milan qui m'a mis une galère. En fait, je sais pas, tu vois, un son, moi, j'écouterais pas un son qui raconte ça, tu vois.
Par contre, ça peut être marrant
si c'est DC ce qu'il fait, tu vois, il le fait. Mais moi, je crois que je saurais pas raconter ça dans un son. Par contre, on peut faire 6 vidéos où je suis là avec mon strab et ça se raconte le truc. Je te dis, voilà, c'était frais. Après, là, boum, on a croisé son ex, ça m'a mis en galère. Je me suis retrouvé dans un hôtel de schlag. Tu vois, c'est un format qui prête à ce genre d'histoire que peut-être j'aurais pas pu exprimer ailleurs. Donc, j'ai trouvé des trucs en le faisant, alors qu'au début, c'est vrai que je l'ai plus abordé en mode bon, bah manifestement, ça fait marcher les streams, on est en galère, faut le faire, on va le faire. Et de fil en aiguille, après, on a fait des trucs sur la philo auquel je me suis encore plus identifié et où c'est en fait, j'ai pris de plus en plus de plaisir à le faire. Ouais.
Sur la composition musicale, sur beatmaking, c'est surtout toi, Andro, mais tu touches aussi un peu à la prod, il me semble quand même, non?
On discute, mais toutes les prods, c'est Andro qui fait, okay. Vraiment. Ouais.
Pareil, t'as l'impression que ça a alimenté ta pratique aussi
Changer 2-3 trucs, ouais.
Par exemple.
En fait, c'est bête, mais TikTok, tu écoutes le son sur téléphone.
Ouais,
et tu sais que la consommation musicale aujourd'hui, elle s'est fait. C'est dur, hein. Franchement, quand tu fais la musique, ça fait mal au cœur. Mais beaucoup sur le téléphone. Ouais. Et en fait, tu peux pas, du coup, te permettre d'avoir une prod surchargée avec 3 lignes de hi-hat qui viennent de. te matraquer la tête comme ça là. Donc tu vas enlever des trucs, même si ça te tient à cœur. Félure est un adepte aussi de l'épuration. Du coup, ça fait mal. On enlève des choses, tu vois. Alors que moi, j'aime bien dans la démonstration, on te fout des gros glides de partout, que ça vienne te taper l'oreille à droite, à gauche et épurer. Exactement comme, exactement. En fait, on monte sur le même enseignement, sur des parties différentes. Épurer pour mieux donner la substantifique moelle.
Exactement.
Mais alors ça, du coup, c'est les prods sur chaud. TikTok.
Ouais.
Est-ce que par contre, sur les prods Spotify, Apple Music, tu te fais plaisir quand même?
On va se faire plus plaisir, mais j'en retire quand même justement ce truc de...
Toi aussi, d'efficacité, de simplicité.
Ça, c'est qu'après, on apprend, enfin, on s'en rend compte aussi, je crois, quand on commence à faire du son, que ce soit les rappeurs ou les beatmakers, on charge, quoi.
Ouais,
on charge.
Bah oui, c'est normal.
On va mettre des rimes partout, on va mettre des percus partout, ça va être...
Et on en se stéréo, compte, machin, spatialisé.
Exactement ça. Et après, on se rend compte qu'en fait, ce qui fonctionne, mais même quand ce qu'on écoute, c'est en fait des trucs. Il y a un gars, il a pris une guitare, il a mis une caisse claire et un charlet, et il chante pas pendant le refrain. Et il n'y a pas la voix pendant le refrain, tu vois. Et pendant son refrain, c'est ça. Pas de parole pendant le refrain.
Ouais, putain.
Et tu fais, mais ça, c'est ultra bien, en fait, ça cartonne son truc. Et c'est, enfin, en plus de cartonner, c'est bien. Et du coup, ouais, je pense qu'on tire les mêmes, ouais, dans des domaines différents, on tire plus ou moins les mêmes enseignements.
Et puis, il y a aussi ce retour instantané. Ouais. C'est-à-dire que je le vois, les gens, là où les gens disent, parce que la prod, c'est pas le premier truc que tu vas venir commenter, parce qu'en plus, on y met du fond dans ces trucs-là. On y met beaucoup de fond. Pour le coup, on parle de philo. Donc, en fait, le fond prime sur tout le reste. Donc, en fait, les gens s'attardent surtout sur le fond. Mais du coup, quand les gens s'attardent sur, des rimes, ou la prod, ou un truc, tu dis, ah, ils sont plusieurs à m'avoir dit que celle-là, elle marchait bien. Ok, c'est cool. Bah, peut-être qu'on va la foutre sur un projet, en fait. Peut-être qu'on va la retravailler. Et tu vois, donc en fait, t'en tires aussi une
c'est comme des drafts, en fait, que tu fais.
C'est exactement ça. Tu fais de la production agile, tu vois, comme dans le développement, en fait. Tu produis un peu, tu fais des retours, et hop, tu reproduis, et puis petit à petit, plutôt que délivrer un truc où tu t'es échiné pendant 2 ans.
Sans aucun feedback, et tu le balances.
Ouais, exactement. Et quand c'est reçu, les gens sont, attends, j'ai mis toute mon âme. Mais tu peux pas t'attendre à ce que des gens qui n'ont pas vécu ton process de travail.
Bah oui, soient
aussi fous que toi à l'idée de l'écouter, tu vois. Ouais. Alors que TikTok, tu mets une énergie considérable quand même, hein. Ça me prend entre une demi-journée et une journée pour chaque TikTok. Mais, en fait, t'as un retour.
T'as le feedback instantané.
Ouais. C'est vrai que c'est un truc dont on a déjà parlé dans cette émission. Ça manque encore un peu les plateformes, mais peut-être parce qu'il n'y a pas de besoin en réalité, où sur la musique, on peut interagir réellement. Typiquement, l'un des rares exemples, c'est SoundCloud. Où SoundCloud, tu peux mettre à telle seconde, j'adore le drop de machin, etc. Mais c'est extrêmement rare dans la musique de manière générale. Je sais pas si ça serait un besoin, si que ce soit les auditeurs, que ce soit les artistes eux-mêmes aimeraient avoir ce retour directement, mais c'est intéressant que toi tu sois sensible, en tout cas que vous y soyez sensible, à vous dire, ça
Sur les plateformes que tu puisses commenter,
Les quelques tentatives communautaires sur ces plateformes, elles ont jamais fonctionné.
Mais on a essayé de faire, avec les limites que nous imposent les plateformes, mais justement ce truc de sortie mensuelle, tu vois, là on sort de 7 mois où on a sorti des singles tous les mois pour justement avoir un retour de des gens qui nous suivent, ceux qui vont l'écouter, qui nous disent ce morceau-là j'aime bien, ce morceau-là il m'a moins touché, et puis on voit que cette personne sur tel morceau elle a bien aimé, ok, donc en fait il y a un schéma qui se dessine, c'est intéressant. Et puis tu vois, celui-là il a pas marché, ok.
Et frustré aussi de l'expérience en étant produit, où en fait on se retrouve à clipper un morceau qui a été écrit 1 an et demi avant. Ouais. Donc en fait tu fais un morceau de rupture, tu fais un morceau de rupture sur une, tu clipes un morceau de rupture sur une, et puis j'ai eu 3 meufs entre temps. T'es dans un truc, t'es plus du tout dans la même énergie, quoi.
Vous savez quoi, on reviendra sur ce sujet parce que on va essayer de diviser un peu ce podcast en 3 parties entre guillemets. C'est-à-dire, là on parle un peu des réseaux, on va passer d'ailleurs dans peu de temps, je pense, plus à les questions des étiquettes, comment présenter sa musique, etc., comment la valoriser. Et puis en dernier, un peu comment s'entourer, effectivement, notamment votre expérience en label, où finalement vous vous êtes dit, c'est peut-être pas ce dont on a besoin, mais on va y revenir.
Yes.
Je te propose, on discute un peu là de cette question des étiquettes. Parce que votre musique, d'ailleurs, allez écouter Félure, Cross Andro et Andro, c'est il faut, sur les médias, dans les réseaux, etc.
Un
petit X, Félure, Cross Andro. Elle a des codes particuliers, elle vous ressemble. Mais il faut mettre des mots dessus, entre guillemets, quand on veut la mettre en avant. Et vous, très vite, ce qu'on voit, c'est un peu cliché, d'une certaine manière, quand même, c'est le rappeur prof de philo, parce que effectivement, tu es professeur de philosophie en parallèle, et le beatboxer, beatmaker. Alors, je comprends la force du truc de le présenter comme ça. Mais en même temps,
l'étiquette prof de philo, tu veux dire mise en avant, autant mise en avant.
Ouais, c'est-à-dire que c'est à la fois ça titille la curiosité, en même temps, on se dit ah ouais, vas-y, j'attends du rap de prof de philo. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu comme.
Moi j'ai écouté et il a balancé des trucs de prof de philo.
C'est vrai. C'est bon,
ça va ramener des souvenirs.
Non, on ment pas.
Non, ouais, c'est quoi votre rapport à ça, parce que tous les artistes, ils ont une espèce d'étiquette évidemment, mais quand tu te valorises beaucoup à travers les réseaux. La petite phrase, la première accroche, ouais. etc., elle est ouais. encore plus importante. Et vous jouez beaucoup avec ça. Mm. C'est quoi votre rapport à tout ça? Comment vous présentez? Est-ce que vous acceptez ça? C'est un jeu?
Ouais, moi je dirais que c'est une bise. Hein.
C'est ça.
C'est-à-dire, en fait, il y a un moment où on nous demande d'envoyer des bios et qui font 4 lignes à des gars qui nous connaissent ni d'Ève ni d'Adam et qui reçoivent 200 candidatures par jour. Ouais. Et qu'à un moment, il faut que le gars ouvre le foutu mail.
Faut que
le gars, il ouvre le mail. Et c'est une logique commerciale, quoi. Oui. En fait, nous, dans notre travail, on dit, je crois que c'est Kian Kojandi qui disait ça, qui disait, en fait, quand t'es un artiste, et que t'es en indé, en réalité, il y a une partie de toi, c'est l'artiste, il dit, moi, j'aimerais faire ça, je veux qu'on fasse ça, alors moi, j'ai tel projet, ouais. je vois telle vidéo. Puis après, derrière, il y a la partie prod. Je lui dis, mais frérot, en fait, t'as 800 euros de budget pour ton clip, là. Comment tu le sors d'où, le dragon, là? Tu vois, t'es sympa, ouais. tu vois. Et donc en fait la partie artiste elle dirait bah ouais on se présente pas comme ça, la partie artiste elle dirait on met pas de bio, on met les sons et soit t'écoutes soit t'aimes pas tu vois, ouais. mais la partie prod elle dit ok, comment est-ce qu'on fait pour que les gars ils ouvrent les mails, comment est-ce qu'on fait pour que les mecs de Spotify ils veulent bien nous mettre sur la phase B ou sur je sais pas quelle playlist et bah en fait il faut des catchlines quoi, et donc on s'en sert jusqu'à ce qu'on ait plus besoin de s'en servir.
Voilà, moi c'était ma question, c'était du coup l'accroche prof de philo. Est-ce que tu as envie que ça te suive tout au long de votre carrière, en fait? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu vas dire, eh bon, c'est bon, tu vois, je suis plus que ça, en fait?
Ouais, bah, je crois que j'aimerais que ça évolue vers un truc plus global. C'est-à-dire, moi, en vrai, j'écris toutes sortes de trucs. Donc, en fait, j'ai envie de publier des bouquins, j'ai bossé sur des voix off de documentaires.
Tu expliques régulièrement que ce qui t'a mené au rap, c'est avant tout le texte.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'était carrément, exactement. Donc, en fait, j'ai envie que ça généralise. Donc, l'étiquette prof de philo, si je la traîne quelques temps, en fait, j'aimerais que ça s'ouvre. Que cette idée, ouais. ce soit pas, je sais pas, c'est ultra pompeux de dire ça, mais dire j'aimerais avoir un rôle d'intellectuel, en fait, comme.
Rappeur intellectuel, attention.
Attention,
c'est un marché.
On cite des noms, on en a quelques-uns.
C'est ça, en fait. C'est vrai qu'on n'a pas encore cette dénomination. Il n'y a pas cette case sur Spotify. Ouais. Y a pas, quand tu pitches ton morceau, il n'y a pas.
C'est intéressant que tu dises que tu es venu au rap par le texte, alors que aujourd'hui, hein, je parle vraiment pour le rap actuel. Les gens viennent plutôt pour le son, la sonorité, plus que parce que tu vois, tu peux faire un morceau qui dure 3 minutes en disant Gucci,
ouais.
Gucci Gang, et ça va marcher. Ouais. Tu vois, tu peux dire rien en fait. Il y a des mecs qui disent rien pendant 4 minutes et ça marche quand même. Tu vois.
Ouais,
est-ce que toi, du coup, tu te sens pas un petit peu en décalage par rapport à
Ouais,
on est d'accord.
Après, et puis il y a beaucoup de rappeurs.
Vas-y.
Il y a beaucoup de rappeurs qui ont commencé à écrire, qui sont devenus des écrivains parce qu'en fait ils ont kiffé le rap, ils ont écouté du rap et ils ont commencé à écrire parce qu'ils faisaient du rap. Et alors que moi j'ai l'impression d'avoir fait le mouvement
dans
le sens que j'écrivais. Et à un moment je me suis dit mais qui va lire des foutus poèmes, bordel, qui lit des poèmes aujourd'hui? Moi-même je lis pas de poèmes modernes, j'aime la poésie mais moi-même je connais pas de poète actuel. Je me suis dit mais qui va lire ça? Donc en fait par contre j'écoute du Peura et il y a des gars qui ont montré la voie. Au début le Peura c'était très street, moi je suis pas très street, donc en fait pendant longtemps le Peura c'était même pas envisageable. Il y a des gars qui ont ouvert la voie. Et principalement les premiers gars que j'ai écoutés c'était les gars de l'animalerie en fait. Les gars type Lucio Bukowski,
Lyonnais,
de Lyon.
Voilà,
il vient de
là-bas, cette clique.
Ça c'est vraiment les gars qui m'ont fait dire OK, en fait ces gars-là, Lucio Bukowski par exemple, bah c'est un gars je me suis dit OK, en fait si lui il tourne, moi je peux tourner en fait. Et donc c'était sans ambition de remplir Bercy, mais en se disant OK, en fait ces textes que j'écris tout seul chez moi avec personne lirait, en fait je pourrais les rapper, les mettre en scène. Et les diffuser, quoi, que c'est un sens dans l'époque.
C'est ce que tu disais sur le texte. C'est vrai que je pense qu'il a le sens du texte a une valeur peut-être moins importante. En tout cas, en fonction, il y a plein de scènes et plein de niches dans le rap en réalité, etc. Mais dans le rap mainstream, on est d'accord. La particularité du rap, je pense, là, je réfléchis à haute voix, hein, mais c'est que le texte, c'est aussi la sonorité. C'est pas que le sens.
Il faut le faire sonner, bien sûr.
Et ça reste essentiel, je pense, dans le rap encore aujourd'hui. Le flow, la sonorité, ta voix, comment tu vas scander, etc. C'est un autre rapport au texte, mais c'est pas
complètement. C'est la forme.
C'est la forme. Mais c'est pas complètement autre chose que le texte. C'est ça que je veux dire.
Enfin, t'as des mecs qui peuvent te faire des multisyllabiques de ouf, qui racontent rien.
C'est vrai.
Mais il y a énormément de morceaux que je kiffe. Et c'est pour ça que généralement, tu vois, quand t'attaques le rap, tu rentres par le rap US, à un moment où t'es pas forcément bilingue, tu vois, depuis que je le suis.
Ça, c'était le cas à l'époque, je pense.
Ah là là, mais il y a des morceaux, tu dis, ah ouais, mais c'est nul, en fait, ce qu'il dit, c'est incroyablement nul. Et je trouve que la force du rap en français, c'est justement de réussir à manier le fond et la forme. Et moi, j'ai l'impression, mais ça, c'est mon avis de connard. On a le droit de dire connard.
On a le droit de dire connard.
Ok. J'ai l'impression que justement, on a tendance, tu vois, à dumb down le truc, avec ces histoires de top line, de machin, de trucs, de, il faut l'efficacité, il faut que, tu vois, enfin, un morceau de rap aujourd'hui, s'il fait plus de 3 minutes 45, c'est miraculeux, tu vois. Moi, j'écoutais des mecs qui faisaient des morceaux de 6 minutes, il y avait pas de refrain, tu vois. C'était à l'ancienne. Là, maintenant, moi, on m'avait dit, ouais, un morceau radio, c'est 3:30, machin, 3 couplets. Maintenant, c'est 2.
Ah bah ouais.
Tu vois, et tu te dis, en fait, tu vois, c'est aussi de la surefficacité. Du coup, on élague à mort, on simplifie, etc. Mais du coup, je trouve que parfois, on perd le fond, tout simplement. Alors moi, j'attends pas qu'un rappeur me fasse un album qu'avec des trucs deep. Ou après, t'as envie de te jeter du balcon en disant « Waouh, putain, en fait, cette vie, c'est de la merde, j'arrête. » Mais c'est vrai que moi, je constate que ce qui plaît aux petits... Parce que moi, j'essaie de garder des petits dans mon entourage et dire, hey, t'écoutes quoi? Ah, ouais, quand même. Et, tu vois. Et je me dis,
t'es dépité en général.
Bah ouais, je suis là, je fais, ok, ça j'entends, ouais, pourquoi pas, etc. Et, parce que aussi, les artistes sont très jeunes. Donc, je sais pas quel âge vous avez, les gars, mais, le rap, ça a toujours été une musique, tu sais, d'arriver dans l'âge adulte, etc. Donc, t'as la gnaque d'un mec de 19 piges, 20 piges. Quand toi, t'arrives dans le hip-hop avec la trentaine et que t'as déjà payé des impôts dans ta vie et tout, tu vois.
je crois que nous, on veut faire un rap de daron. Hein.
Mais c'est bien.
Nous,
c'est ça qu'il faut.
Un rap de daron. Je pense qu'il y a un biz de rap de daron qui n'est pas encore assez développé.
Tu vois, c'est ce que je te disais.
Ça existe.
Il y a longtemps déjà.
Ah bah ouais. C'est les anciens, surtout majoritairement.
Mais ouais. Mais je pense qu'il y a un créneau, quoi. En fait, il y a plein de gars qui ont grandi dans les années, fin des années 80, années 90, qui aujourd'hui écoutent du rap. Ils se retrouvent avec des petits jeunes.
Des petits beat-craveurs et tu
Les big graveurs, ils sont là, ils disent bon, moi c'est sympathique ta sacoche Gucci, mais en fait moi j'ai mon môme à aller chercher à l'école,
exactement.
Donc en fait ça me parle pas. Par contre, si tu me parles de ta meuf qui a avorté, là tout de suite je peux me projeter dans des trucs sérieux que j'ai expérimenté et donc je pense que nous on va faire du rap de daron, hein, clairement.
Mais du coup vous avez cette ambition de cibler une démographie particulière ou vous dites ouais pour l'instant on s'en tape un peu et
pour l'instant, on vise pas, mais je pense qu'en fait, à terme, c'est ce qui va se passer. Ouais, parce qu'en fait, je vois, de toute façon, moi, les trucs que j'écris, je vois pas comment un môme de 15 ans, il peut s'ambiancer dessus. C'est-à-dire, même ce que je vais raconter, ce que je veux raconter dans ce que j'ai vécu, dans
mes expériences. Ah, il y en a qui sont matures.
Ouais.
Ah, ça grandit
probablement,
vite.
Ça grandit vite. Mais j'ai du mal à, a priori, on se dirige pas vers des sons justement ultra simplistes qui peuvent être écoutés à l'école et où les mômes chantent sans vraiment comprendre ce qu'ils chantent, quoi.
C'est quoi votre positionnement vis-à-vis du rap? Parce que la forme est indéniablement rap dans ce que vous faites. Les codes, l'identité qui se dégage du groupe, c'est pas naturel pour tout le monde de l'intégrer au rap, je pense.
Ouais, bien sûr.
Il y a plein de clichés, ouais.
Mais même au-delà du cliché, c'est-à-dire qu'il y a aussi il y a un patrimoine, une histoire liée au rap, etc. Et vous y avez un peu moins recours, j'ai l'impression quand même.
Ouais, carrément.
Après, on pourrait parler de légitimité. Est-ce que vous vous sentez rap profondément? Est-ce que c'est une forme avant tout pour vous? Est-ce qu'il y a une culture du rap qui vous tient à cœur?
Tu veux commencer?
Je peux parler pour mon cas et toi parler pour ton cas. Après, on verra où est-ce qu'on se rejoint là-dedans. Mais en fait, moi, quand j'entends ce qu'on fait, c'est rappé, il y a vraiment tous les codes du rap. Et dans les prods, je pense qu'elles sont aussi indéniablement rap. C'est-à-dire, j'utilise des outils de production actuels avec les plugs
que tout le monde utilise aussi.
Et les drum kits. Tu vois, je réinvente pas le genre non plus. Mmh. Et donc, en fait, quand j'écoute ce qu'on fait, indéniablement, je me dis, en fait, c'est du rap. C'est juste une des multiples branches. Je ne saurais pas trop.
Laquelle?
Ouais, non, mais il y a des fois, et surtout, on expérimente parfois encore aussi. Il y a des trucs où on se dit, tiens, pas trop essayé ça, viens, on essaye.
On se fait
plaisir. Donc, moi, le rap, j'aime d'amour. J'en écoute beaucoup. Mais vraiment, ça aussi de rap.
Large.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est aussi des trucs qui vont paraître assez violents et d'autres trucs que ma mère, elle va pouvoir écouter en passant par des trucs pas du tout connu du grand public, donc vraiment. Mais c'est vrai que je ne sais pas des fois où nous ranger. Et en même temps, c'est cool. Moi, j'aime bien cette idée qu'on puisse naviguer dans tout ça avec différentes identités.
Et ça, c'est très, très chouette. Parce que moi, c'est un des trucs qui m'a toujours bloqué. Le fait d'avoir une caste qui définit ce qu'est le rap, tu vois, et qui dit si tu fais pas ça, si tu rentres pas dans ces cases-là, t'es pas un rappeur. Alors que porte à croire le contraire, puisque bah, tu rappes dans un micro, t'as des instruits hip-hop, même si t'as pas les codes, que ce soit vestimentaire ou de l'attitude, en fait, on s'en tape. Tu vois, et je pense que ça, c'est la force du truc, c'est que aujourd'hui, on peut faire ça. Dans les années 90, début des années 2000, c'était compliqué, tu vois. Il y avait un cliché pour un rappeur, c'est ça. Et si tu sortais de ce truc-là, t'étais taxé de poète urbain, de
slammer.
Ouais, tu vois, de trucs comme ça. Bah, Grand Corps Malade, par exemple, c'est voilà, c'était plus un poète qu'un rappeur. Alors que le mec, bah, en fait, c'est ce qu'il fait, c'est du rap concrètement, tu vois. Et moi, je trouve ça cool justement qu'on s'affranchisse de ce truc-là et se dire, hey, le rap, ça appartient à tout le monde, en fait. Vas-y, tu sais quoi. Si t'as l'énergie, si t'as l'envie, fais ton truc. Et il y aura toujours des mecs pour te coller une étiquette rappeur conscient versus rappeur street, machin. Je trouve que c'est un peu con de se réduire à ça, tu vois. Donc moi, ça me fait plaisir justement de voir des gars qui arrivent et qui disent, bah nous, on fait notre truc. Et puis, si t'écoutes pas, enfin, si t'aimes pas Renoir, bah t'écoutes pas, et puis c'est tout, tu vois.
Mais c'est une chance d'ailleurs qu'on a actuellement, qu'il y ait eu une ouverture quand même, globalement, de la musique rap, de manière générale.
C'est la nouvelle pop, donc c'est cool aussi, tu vois, ça.
Qui existait à plein d'époques, mais c'était des niches à chaque fois. Et là, on a l'impression que le mainstream lui-même accepte qu'on puisse avoir plein de formes différentes dans le rap.
Après, du coup, il faut quand même qu'il y ait... Enfin, ce que j'ai remarqué, hein, c'est qu'il faut que cette ouverture vienne par quelqu'un qui est bien imprégné du truc et qui fasse un effort d'eux pour ouvrir la porte pour les autres, en fait. Ça se voit au niveau du rap US, tu vois, un mec comme Kanye West ou Kendrick Lamar, les mecs... Tu vois, enfin, Kanye West, c'est un gars de la middle class. Il a pas grandi dans le ghetto.
Il est prof d'université.
Voilà, il a pas perdu ses parents très jeunes. Il a jamais dealé du crack. Et en fait, le fait d'arriver comme ça, ça a permis, lui, en ouvrant la porte, en disant, je suis pas un gangster, et en fait, on s'en fout. Mm-hmm. Ça a permis aussi de décomplexer plein de gens qui auraient bien aimé se lancer et causer pas parce qu'ils se disaient, je rentre pas exactement dans les bonnes cases, je serais pas légitime, etc. Donc, moi, cette histoire de légitimité, c'est le premier truc, tu le prends. Je fous par la fenêtre.
Au début, c'était inenvisageable hein, quand j'étais un petit peu le rap. C'est-à-dire, moi, j'étais en cours dans le 6e arrondissement, je faisais du tennis, c'était pas le game, tu vois. C'était les cheveux longs et des polos, tu vois. Donc, c'était pas l'ambiance. Là, on écoutait du rap, mais ça aurait pu faire un truc.
Un truc de ouf.
En fait, le premier son que j'ai sorti, c'était une référence à Paul Verlaine. C'est un son qui s'appelle Passante, qui fait une référence à la fois un roman de Baudelaire qui a une passante et un autre qui est le rêve familier de Verlaine. On a tous appris à l'école qui est je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme et que j'aime et qui m'aime. Et donc, c'était affirmé, quoi. C'était de dire, revendiquer le fait de dire justement ce que tu disais. La légitimité, on l'emmerde. Le rap, il y a eu plein de gars qui sont passés avant moi qui ont pété les portes et qui ont fait un travail de ouf. Que j'aime ou que j'aime pas, d'ailleurs, enfin dans la production musicale, mais qu'on fait, qu'on apporte énormément au rap. Et voilà, du coup, en effet, comme le disait Antoine, moi aussi, je suis un baiser de rap, en fait. J'écoute quand même que ça. C'est quand même, et de Caris à Naps, en passant par, des gars que personne connaît, qu'on a chiné dans des soirées où on est allé. Mais ça serait mentir que de dire que j'appartiens à la culture hip-hop au sens classique du terme, on va dire historique du terme.
C'est intéressant ce point parce que tout à l'heure j'avais évoqué le patrimoine, un peu l'historique du rap, etc., ce qu'il a laissé. Et je pense que le prérequis, par contre là en l'occurrence ce qui me paraît important quand on fait du rap, c'est d'écouter du rap et d'aimer ça.
Ah bah ouais.
Sinon là, ça ne peut pas marcher. Après,
tu peux avoir des mecs qui réussissent en fait à s'approprier les codes. En fait, c'est
même ça devient de la parodie après.
Bah, en fait, ouais, mais on est un
Lorenzo, un truc comme ça. En plus, je suis sûr qu'il adore le rap.
On en est à la post-parodie, tu vois. Mais quand t'as un cobaladé qui te dit que tu parles d'Aya, mais il fait qui?
Attends, ça c'est pas la même chose parce qu'il y a aimer le rap, il peut écouter des trucs très actuels et adorer ça. Il y a vraiment avoir un rapport au passé qui lui a évolué dans le temps. Il y a eu une très bonne émission de Mehdi Maizi récemment là-dessus, effectivement, sur est-ce qu'on doit connaître ses classiques quand on aime le rap, est-ce qu'on peut se dire passionné, etc. Et je crois que autant il faut aimer le rap, autant par contre le rapport, la temporalité de tout ça, c'est est-ce qu'on doit connaître les classiques, etc. C'est un truc générationnel, c'est un truc de rapport à la musique. Fait, non, on peut pas exiger toujours, je pense.
Parce que moi j'étais plutôt en train de me dire que trop baigner dans le rap, c'est-à-dire vraiment connaître les codes, connaître les trucs, que ça soit d'aujourd'hui ou de l'époque, ça peut même te bloquer toi ta créativité en te disant putain il faut que tu vas te contraindre un petit peu. Je me dis c'est peut-être même plus cool d'avoir un gars mais qui connaît rien. Jusqu'à le sens de la rythmique et de savoir poser un texte et qui se met à dérouler des trucs sur des instruments hip-hop, et au final le mec fait du rap, mais c'était peut-être même pas l'intention originale, tu vois. Et je me dis, bah c'est frais, ça te permet d'avoir des gens qui tu sais, qui sortent un peu de la boîte, quoi.
Je comprends, mais je pense qu'à ce moment-là, j'attendrais plutôt quelqu'un qui écoute du rap, mais qui écoute assez d'autres choses pour pouvoir,
ouais, tu vois, mettre ça. Ouais.
Parce que sinon, ouais, tu te retrouves avec, alors il y a eu peut-être des exemples plus récents, mais sinon tu te retrouves avec chacun fait ce qui lui plaît, etc. Le début presque du rap en fait en France.
C'était le premier rap français.
Mais c'est oui. Où en fait c'était vu comme une espèce de mode, le rap dans un premier temps, et que c'est des gens du divertissement, de la variété, de la pop, etc. qui ont singé, tu vois, le truc dans un premier temps. Puis ensuite, ça a été vraiment, c'est devenu une culture française rap beaucoup plus importante, etc. Mais ça a commencé comme ça. Et donc, je sais pas s'il y a des exemples plus récents comme ça, mais quand tu viens vraiment, quand tu captes pas le délire, je sais pas si tu peux réellement lui rendre hommage
ou lui apporter quelque chose. Je suis partagé parce que je me dis justement que le rap aujourd'hui, c'est la pop. Ok? C'est la nouvelle pop. Tout le monde fait ça. Et je me dis, si la pop en France actuellement, c'était pas le rap, mais c'était la folk, ça se trouve, en fait, la moitié de tes rappeurs, ils auraient une guitare, et tu vois, ils feraient des trucs. Et tu dis, en fait, je sais pas si tous ils arrivent avec ce délire de je le fais pour la culture hip-hop, machin, etc. En fait, tout le monde s'en tape maintenant, tu vois. Je pense que, il se trouve que si t'as un message à faire passer, on va pas se mentir aussi, en termes de production, c'est quand même toujours plus simple de faire du peura. Que de te dire, je vais aller booker trois icos, tu vois, un studio, et puis, en fait, tu peux faire ton instru dans une chambre d'étudiants sans aucun problème. Donc
c'est l'un des secrets de son succès.
Ouais, en fait, c'est facile, attention. En tout cas, c'est plus facile d'accès en termes de moyens. Donc, il y a plein de mecs qui viennent à cette musique-là parce que c'est la plus simple pour eux, comme il y a plein de mecs qui se mettent à jouer au foot parce que, bah, il y a un terrain, j'ai un ballon, let's go, tu vois. Alors que s'ils devaient faire de la pelote basque ou du hockey, ils diraient, ah ouais, mais j'ai pas l'équipement, c'est chaud, tu vois. Donc, je suis pas sûr que tous les artistes nouveaux qui se lancent aujourd'hui et en fait en tête cette tu sais ce respect de du crafting genre le chevalier du rap qui se dit
c'est pas forcément ce que je voulais mettre en avant culture. Mais c'est juste le fait d'en écouter et d'aimer en écouter.
Oui, voilà. Oui, après
tu fais pas complètement c'est... si t'es exogène au truc, tu vois, complètement je suis pas sûr que ça marche.
Du slam, c'est ça que tu veux dire?
Non, en plus, c'est quoi le slam? J'avoue, j'y connais absolument rien. J'ai jamais réussi à réellement définir le slam. J'en ai une image assez négative, honnêtement, mais parce que je connais absolument pas. Donc, je me permettrai pas en fait de juger.
Bah si, jugeons.
En live, c'est assez prenant le slam. Ouais. Pour en avoir vu, plusieurs fois au canal. Tu peux me remémorer. GMAP. Il y avait des soirées slam qui étaient organisées et c'est très prenant. Le silence de la salle, cette personne qui est là et qui c'est voilà, c'est très prenant.
Et puis même, tu te rappelles, on avait fait une soirée avec Jackie Ido, qui est un comédien qui a joué dans des gros films, notamment Inglourious Basterds,
je crois ça.
Et qui est un slammer lui de formation. Et qu'on avait fait une soirée, on avait fait un concert, il avait ramené des potes à lui. Et en termes de technicité, il y a des gars chauds, quoi, en fait. Si on cherche la technicité dans l'écriture, il y a des gars qui font des, qui arrivent à faire des jeux de langage qui sont assez impressionnants et où on est vraiment focus sur le texte, quoi.
Et comme ils ont pas d'instru,
c'est moins grand public. C'est vraiment aimer le texte. Et ça rejoint un peu ce que tu disais sur le fait que, du coup, si tu t'intéresses pas au fond, t'as aucune raison.
Ouais, c'est ça.
Coup de date, faut qu'on reçoive un slammer un jour.
Mais moi, j'aimerais bien, franchement, pour lui poser la question que tout le monde se demande. Pourquoi t'as raté ta carrière? Pourquoi? Est-ce qu'un slammer est un rappeur déçu?
Peut-être.
Des bisous au slammer. En fait, après, tu dis, c'est prenant, tu vois. Cette discipline est prenante. Et effectivement, quand t'es dans la salle, quand t'es dans le contexte, le problème, c'est que dès que tu sors du contexte, ça marche plus. En tout cas, pour moi, effectivement, tu vas me mettre un slammer dans une salle, tu sais, silence feutré, machin et tout, je vais être captivé, tu vois, mais tu me le feras pas écouter après
C'est du théâtre, quoi.
Prenant mon métro,
Je peux te prendre l'exemple que je connais plutôt bien, le beatbox.
Ouais.
Si tu vas à un concert de beatbox, tu vas te prendre des tartes pendant 2 heures et ça va être incroyable. Tu vas passer une bête de soirée.
Mais après.
Si je t'en mets dans les oreilles dans le métro, c'est pas la même limonade, hein. Ça va. Tu vois, à part si t'es un bousillier de beatbox, tu vois, moi j'en écoute et je kiffe. Mais en fait, c'est pareil, tu vois. Et ça n'enlève rien au pouvoir du beatbox. Ouais. Juste savoir dans quel contexte tu vas te le remettre, c'est pareil. Je vais pas écouter du gras dur pendant que je fais mon ménage, tu vois.
Et pourquoi pas, tu vois.
Peut-être.
Ça peut te mettre dans le bon
moment. Mais moi, je vais avoir tendance
à
le mettre si je fais une course à pied ou... Ouais. Enfin, tu vois, genre, je vais pas me mettre les mêmes sons.
Des tractions.
Ouais. Je voulais pas le dire, pour pas... Mais bon, voilà.
Oui, je fais des pompes et des tractions.
Ouais, voilà. Là, mais tu vois, genre... je pense que c'est aussi très contextuel, la musique.
Et bah justement, je me dis, est-ce qu'il y a une musique... moi, j'aime bien, justement, écouter des trucs qui, justement, s'écoutent en toutes circonstances, tu vois.
Ah ouais. Alors, en vrai, t'es à contre-courant, entre guillemets, parce que, en tout cas, je peux prendre un exemple qui, à mon avis, démontre quand même la tendance actuelle, c'est les playlists de mood.
C'est ce que j'allais dire.
Sur Spotify, etc. Ouais. Et qui connaissent un essor absolument énorme. C'est parmi les playlists les plus fat. Ouais. Et c'est genre, pour dormir, pour faire le ménage.
Ah, moi, ça me fait câbler.
Pour
ça.
Aller au boulot, etc. Ouais, mais c'est comme ça qu'on écoute la musique en grosse partie aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que mettent beaucoup en avant les plateformes.
Arrêtez. Moi, je fais du sport en écoutant du Al Green. Alors, ok, j'ai des pertes de merde, tu vois.
Tu cherches,
t'es pas dans la même énergie, mais tu dis quand même, love and happiness, tu vois, on sent des tractions. Non, mais je sais pas, ouais, Ben après, c'est les plateformes qui poussent le truc, c'est comme le fait d'écouter morceau par morceau plutôt que des albums complets.
Après, ça pose toujours la question de l'interaction. Est-ce que les plateformes le font parce qu'il y a un public aussi? Est-ce qu'elles créent la demande?
Elles créent la demande, ouais.
Il y a certainement un mélange des deux, mais.
Je crois que ça a toujours existé avec les compiles. Tu vois, on faisait des compiles avant, et en fait, on...
Mais est-ce que c'était brandé un peu autour d'un état d'esprit, tu vois?
T'avais la compile Energy Heat Summer, pas Energy Heat Summer, je l'ai.
On a tous fait des erreurs.
Tu vois, j'avoue, je l'ai acheté. En fait, t'avais des thématiques, t'avais Energy Dance, et chaque compile avait son mood.
C'est toujours un délire de, tu sais, t'avais pas Energy Ménage. Énergie, Edouard, tu vois, c'était toujours Pump It Up, Smash It Up, alors ça en était et tout, mais.
C'est vrai, quand t'as une compile qui provient d'un label, d'une radio, etc., tu t'attends à entendre un certain type de son. Mais là, ça va au-delà, parce que c'est juste pour te dire, ça va être adapté à ton activité ou à ton état d'esprit.
Ouais, je vois.
Je comprends, hein,
je trouve qu'il y a des liens. Ça enferme de ouf, tu vois.
Ah oui,
après, il y a peut-être des gens qui se disent, moi, je veux faire que du son pour les mecs qui étudient. Tu vois, voilà, et qui sont en train de taffer leur cours et qui m'écoutent et je fais du easy listening et des trucs comme ça et je me dis je comprends le truc, mais pourquoi en fait?
Parce qu'il faut prendre en compte le fait qu'il y a beaucoup, nous on est débutés de musique autour de cette table.
Ouais, je pense.
Il y a plein de gens, ils ont pas envie de prendre un quart d'heure avant de lancer le premier morceau.
Ouais.
Donc ils se disent juste, qu'est-ce que je suis en train de faire ça, m'a dit ça devrait être adapté si c'est bien foutu, il va prendre du plaisir à écouter ça.
Exactement. McDo quoi.
Ouais, mais
en fait, moi, là, il est 2h du mat, tu te dis est-ce que je me prépare un petit truc à gras? Est-ce que je passe au McDo pour prendre un double cheese? Et bon, on va partir sur le double cheese, hein. On va partir sur le double cheese milkshake, hein.
Le problème, c'est qu'en faisant ça comme ça, jamais dans ta vie, tu te dis, putain, ce double cheese d'il y a 3 semaines.
Eh ouais.
Qu'est-ce qu'il était bien. Ah ouais, en fait, tu reviens jamais.
Ça dépend, le lendemain de soirée, tu t'en rappelles. Bah, on part
sur une discussion face food. C'est une métaphore filée, là.
C'est pour ça que je l'ai arrêté. Subtilement.
On est déjà plus, t'étais plus sûr de ce que ça voulait dire.
On parle de musique, les gars, parce que moi, j'aime pas trop McDo.
C'est quoi le double cheese?
Non, mais voilà, en fait, à vouloir trop simplifier le truc pour que ça colle à des ambiances, à des moods du moment, etc., tu finis par, même toi, peut-être, arriver à un moment où tu vas te restreindre dans ce que tu pourras apporter en disant ça va pas caler avec le mood, tu vois. Et
je te rejoins, et c'est pour ça que moi je me suis mis à acheter des vinyles. C'est pas pour me dire le son va être incroyable, non, c'est juste pour me dire en fait j'ai un projet et je le mets et je vais pas passer la piste.
Ouais, c'est ça, en fait,
parce
t'écoutes.
Que je vais ouvrir le câble, faire ça, puis il y a mon chat qui va arriver, il va avoir le truc qui tourne, il va me mettre un coup, je vais rayer le vinyle. Non, je vais laisser tourner le vinyle. Ouais. Et en fait, du coup, je savoure le projet comme il a été conçu à l'époque.
Ouais.
Et donc, quand j'ai un projet d'un rappeur ou d'une rappeuse que je kiffe qui sort, je vais essayer au maximum de d'abord l'acheter en vinyle et de l'écouter en vinyle la première fois. Si je peux pas, tant pis.
Ouais.
Mais donc, il y a des choses qui restent quand même, selon moi, contextuelles, tu vois, pour revenir au slam et à certaines disciplines. Ça va être compliqué de les écouter dans certains contextes, j'ai l'impression.
C'est vrai. Ça m'attriste.
Ouais.
Ça m'attriste, mais c'est vrai.
Je comprends. Il faut séparer les types de consommation. En fait, il faut accepter à un moment que la musique, c'est un produit de consommation de masse.
D'accord.
Et que des gens peuvent y trouver leur compte à avoir de la facilité comme un fast-food, effectivement. Ouais. Là où il faut être vigilant, c'est que ce modèle, en général, il est extrêmement rentable économiquement pour les acteurs de ce domaine-là et qu'il a tendance à bouffer tout le reste. Il n'y a plus ensuite de possibilités pour les gens qui ont un peu plus d'exigence, un peu plus de recherche, un peu plus de passion, etc. Je cherche pas à valoriser les deux, mais c'est juste dire que, à travers l'aspect industriel et économique, ça prend le dessus sur l'autre et ça peut-être même mettre en danger l'autre modèle. Et c'est là où il faut faire gaffe.
Bah, la lofi, tu vois, c'est un phénomène incroyable, justement. C'est fou.
Moi, j'aime bien cette musique.
Moi, j'aime beaucoup la lofi, hein. Mais tu vois, typiquement, je mets beaucoup de lofi quand je vais taffer ou quand je vais jouer des fois aux échecs, tu vois, j'adore en mettre. Bah, oui, je fais des petits plaisirs. Mais genre, je veux dire, et
le groupe
il y a vidéos, des gens.
Le prof de philo, il joue aux échecs.
C'est le genre de réel.
Non, mais il y a des gens. Il y a des gens qui du coup se sont mis à ne faire plus que de la lofi, tu vois, parce que comme tu dis, c'est un modèle rémunérateur et on peut pas leur en vouloir. En même temps, t'as envie de vivre ta musique, tu kiffes faire ça, bah tu vas le faire.
Ouais, tu vois,
bah,
tu vois la chaîne, la chaîne YouTube.
Bah, Lofi Girl.
Ouais, celle qui est devant. Je crois que c'est Lyon derrière qu'on voit.
Ah oui, je crois qu'ils sont de Lyon à la base. Sont... C'était l'ancien, ça s'appelle Lofi Girl aujourd'hui, ça avait un autre nom avant ou ça a changé depuis, je sais
Music
plus.
Music to Study ou je sais
ouais,
pas quoi.
Ouais, il y en a 3-4. Ouais, ouais.
Ça, c'est le différence, mais ça avait un nom. Mais bref,
deux ans, trois ans qu'ils sont en live non-stop depuis, ils ont jamais arrêté la chaîne sans YouTube.
Bah, de toute façon, si vous voulez parler de, si vous voulez entendre des choses sur le, sur la Lofi, on avait fait un épisode avec les gens de Chillop, qui est un des plus gros labels de Lofi.
Ah ouais.
Et puis on avait reçu Pandrez aussi dans un épisode. Donc, vous avez deux épisodes sur le Lofi à vous écouter pour découvrir ce phénomène et on en discutait justement un peu toutes ces questions.
Mais ça fait du coup partie de ce truc de bah justement ok bah t'adaptes ta musique à la consommation qui en est faite
et qui t'a toujours été le cas en réalité. Il y a, toujours ce discours de dire ouais mais l'art devrait pas s'adapter au public, l'artiste devrait être libre, mais c'est des conneries en réalité. C'est tous les artistes,
t'as une logique commerciale
historiquement
et
les gars
et pas que l'idée c'est de le partager aussi tu vois.
C'est ça, c'est clair.
Ça soit adapté au public. En fait on peut pas penser l'art indépendamment du public. Il y a pas d'art, il y a pas d'artiste qui est tout seul et qui crée son propre monde. C'est un acte de communication, donc en fait il faut faire un truc que les gens puissent recevoir. Et on présente toujours ça, les artistes comme des gars qui auraient fait ce qu'ils voulaient. Tu prends tous les grands romanciers, leurs éditeurs ils ont dit tu vas publier dans le journal, tu vas fermer ta gueule, il y a pas de tu veux faire un roman de, et la Chartreuse de Parme ça se termine en 40 pages parce qu'à un moment le mec il a dit bon on ferme la boutique là. ça fait des mois que tu rallonges l'histoire, tu nous mets des phrases à rallonge, c'est bon moi j'arrête de payer, en 40 pages il fait mourir tout le monde, l'histoire est bouclée, tu vois. Et donc et pourtant c'est une grande œuvre, tu vois, mais elle est déterminée par un contexte, par des réalités économiques, par des publics, et ce serait une erreur de se dire ah il y a eu des artistes qui ont fait ce qu'ils voulaient et il faudrait pas se travestir ou se trahir.
Il y a toujours des compromis, ouais.
Ou alors on te connaît après ta mort.
Ouais, mais ça fonctionne pas tant. Tu vois, si on prend des mecs comme Van Gogh, en réalité, ils s'inscrivent quand même dans des... Van Gogh, il s'est suicidé parce qu'il a jamais réussi à s'intégrer dans le monde des peintres parisiens et qu'il a subi des échecs. Et donc, on le découvre après, mais il y a quand même cette tentative. Il y a quand même
une volonté à la base de plaire, en fait.
Ce qui va pas à l'encontre, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi une part de pratique individuelle. On le vit tous en pratiquant la musique. C'est juste aussi le dimanche après-midi, même quand on est juste un amateur, on se met sur sa guitare tout seul ou sur sa MPC ou je ne sais quoi. Ah, et là, c'est un truc qui est intérieur, nourrissant, personnel pour toi, etc. Ah. Donc, ça s'oppose pas à tout ça. Mais vraiment, quand tu veux être artiste, l'idée, en théorie, c'est de proposer ton art et d'avoir un regard sur ton art et de communiquer comme
tu disais. Toujours aussi cette volonté qui est peut-être un peu présomptueuse de te dire, je vais éduquer, tu vois. Et je trouve que c'est essentiel aussi de se dire, OK, tout le monde écoute de la drill, tout le monde écoute de la trap, avec des charlets, avec un autre repeat au 146e de note. Et tu te dis, venez, on fait de la musique qui prend son temps, tu vois. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de... Tu vois, toi, tu fais des instrus, donc tu dois te dire aussi de temps en temps, putain, j'aimerais bien qu'elle ait un sample, même si ça va pas fitter avec l'audience du moment, mais vas-y, moi, ce sample-là, il me fait plaisir, j'ai envie de le mettre, tu vois. Ou je peux faire des morceaux à 140 BPM tout le temps, et je me dis, t'as toujours ce côté-là de te dire... Ok, les gens ils kiffent ça, mais moi je vais les faire changer. Tu vois, c'est un mirage, hein. Ça se trouve, c'est un truc.
Non, mais je pense que c'est le. Il y a une phrase de Damso qui est magnifique, je trouve, qui dit fais pas ce que les gens aiment, fais ce que t'aimes jusqu'à ce que les gens aiment.
Ouais, bah voilà.
Et c'est dire, en fait, ça veut dire faire ce que t'aimes, ça veut pas dire ne pas prendre en compte les retours et faire ton truc forcément tout seul. Mais c'est dire, je vais pas essayer de leur plaire, mais je vais faire ce que je kiffe tellement bien. Qu'en fait, on va être obligé de kiffer.
Il y a une phrase de Tandem qui disait « Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime
». Ça leur a valu des problèmes.
C'est un peu ça.
Ça a ramené quelques problèmes,
Mais du coup, à partir de quel moment tu te dis « Putain, ça marche pas ». Tu vois, quand justement, t'essayes de coller au Nindo de Damso, à partir de quel moment tu fais « Ok, bon, j'ai essayé, tu vois ».
Mais
en fait, ça prend pas. Est-ce que t'as le flash en tant qu'artiste de te dire bon là, je vais faire un truc que les gens kiffent parce que sinon, en fait, je vais m'entêter et je vais rester solo.
Pour l'instant, c'est pas arrivé. J'espère que ça va pas arriver.
Ouais.
j'espère que les gens vont kiffer avant que ça arrive.
J'essaie de réfléchir, mais c'est vrai que nous, pour l'instant, on est encore dans cette fraîcheur de ce que tu fais. On découvre et je crois que les réseaux aussi nous aident à ça, à avoir cette petite fraîcheur de toujours sortir un petit truc, kiffer quand ça marche bien. Donc on a toujours ce petit. Ça peut être différent.
Vous êtes pas encore à cette réflexion là. J'espère que vous l'aurez jamais.
Mais en plus, on est vraiment dans ce truc de bah en fait, c'est vrai que depuis en tout cas la sortie du confinement où bon voilà ça s'est mis en pause et il fallait l'accepter aussi. bah en fait nous on voit que ça monte, les choses évoluent, on fait des concerts, on fait, donc en fait pour l'instant on est vraiment dans une perspective où ça monte, il y a un moment potentiellement où ça va
atteindre le plafond, ouais.
Ouais, bah, et puis en réalité si je vais dans ton sens, on a fait des sons qu'on a plus pensé de manière commerciale que d'autres. Ça nous est arrivé de faire des sons, on s'est dit ok, bon bah en fait on va faire une structure plus classique, on va mettre tel élément, on va essayer
votre
d'avoir
banger, quoi.
Ouais c'est ça, ouais. Et en fait c'est simple, ça marche pas. Ça marche pas, c'est-à-dire qu'en fait les gens ils vont kiffer des sons. En fait moi tous les sons sur lesquels j'avais pas misé là, tous les singles sur lesquels j'avais pas misé, c'est ceux que les gens retiennent. Ouais. Et on l'a entendu plein de fois en interview, tu vois. Mais on a quand même, tu vois, on a quand même essayé.
Ouais.
Et donc en fait c'est aussi encourageant de se dire quand les gens kiffent, c'est quand t'es le plus franc, c'est un peu bateau de dire ça, mais d'abord en fait quand je fais un truc que moi je kiffe,
c'est la sincérité.
Ouais, c'est ça. Bah les gens ils vont kiffer. Et quand j'essaie de plaire aux gens, ils vont voir que j'essaye de leur plaire, ils vont se dire, ah ouais, en fait, un peu pété. Tandis que quand on fait juste notre mayonnaise et qu'on dit, vous voulez pas, on s'en bat les couilles. Et ils disent, je prendrais bien un peu de maillot. Et donc ça, c'est assez encourageant. Mais comme dit Andrew, là, pour l'instant, c'est plutôt une ascension. Enfin, on est dans un rythme ascendant, du coup.
Et vous posez pas ces questions, continuez.
Puis on a l'avantage d'être deux aussi, c'est-à-dire qu'on peut aussi se motiver à deux. Mais je pense que, je pense que tu dis que ça marche pas, j'imagine, hein, quand t'es fatigué, tout simplement, en fait, quand tu dis, en fait, là, je peux plus.
Ouais, vraiment,
là,
quand
je pense que quand t'es fatigué, et déjà, économiquement, t'as tout donné, et ton énergie, t'as tout donné.
Ouais, t'as plus la gnappe, quoi.
Ça fait un temps aussi que tu le fais et qu'il n'y a aucun retour et que ça n'évolue pas. Bah, je pense que. Après, est-ce que c'est parce que ça marche pas là que c'est condamné à ne jamais marcher? Enfin, tu vois.
Et puis, il y a un moment aussi où je pense qu'il faut faire le point en tant qu'artiste, c'est de dire, il y a peu d'élus.
Ouais.
Pourquoi on le fait? Est-ce que le but c'est percer? Est-ce que avoir une niche? Et d'ailleurs, ça peut même mettre parfois un modèle économique d'avoir une niche.
Grave.
Tu vas pas te rendre riche, mais ça peut te permettre d'en vivre. Il y a un truc aussi comme ça, à un moment de faire le point avec soi-même. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi on le fait?
Je pense que c'est plus facile quand t'es deux, du coup.
Ouais.
D'avoir un échange que toi de t'auto-diagnostiquer.
Grave. Facile, hein.
Ouais. Et après, moi, je suis persuadé d'un truc. Je pense Antoine aussi. Il est peut-être moins persuadé que moi, mais c'est que, en fait, si tu charbonnes, ça va, c'est marre, quoi.
Ouais.
Enfin, je me dis, d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'on va être, même si on pouvait le faire, on le ferait pas, mais est-ce qu'on va être en mesure de flex chez Gucci? Je sais pas.
Les sacoches, elles sont éclatées,
en plus. D'accord. En vrai, Gucci, en plus, c'est un très, éventuellement Hermès. C'est quand même un petit peu plus, on est sur un autre standing. Mais de toute façon, a priori, même si on avait cette oseille-là, je pense pas que ça soit là où on mettrait nos thunes. Mais est-ce qu'on va arriver à ce niveau-là? Bah, a priori, là, il me semble qu'il y a d'autres facteurs que le taf qui rentrent en compte.
Non, complètement. Ouais.
On rentre dans d'autres logiques. Mais est-ce que tu vas pouvoir bouffer avec ton taf? Si tu charbonnes, t'es investi, tu fais des trucs que tu kiffes. Moi, je me dis, en fait, c'est obligé. Et peut-être que j'ai tort. Hein. En fait, j'ai aucun élément tangible qui me permet de me dire que c'est sûr. Mais je me dis, sinon, c'est truqué, quoi. Sinon, il y a une. Tu vois, je peux pas penser autrement, quoi. Et peut-être que j'ai tort. Mais du coup, ça permet de continuer, quoi.
Ouais.
Ça permet de se dire, on va charbonner jusqu'à ce que ça fonctionne.
Ouais. Écoutez, les gars, on croise les doigts pour vous. Allez écouter Fellure et Andrew.
Fellure Cross Andro, non
ça. Bah, je sais pas, mais
Fellure X Andro.
Ouais. Et c'est juste pour que les gens,
tu vois, c'est intéressant ce qu'on va le voir là. Là, on voit un truc intéressant sur le nommage du groupe et on va en discuter. Voilà. Tu vois, il y a un problème en termes
de com.
Pas évident. Bon, ok, comment on peut faire?
À l'oral,
j'espère.
Mais c'est essentiel. Bon, voilà.
Bon, ok, ça me critique, c'est bon, j'ai compris.
Non, on prend des sons, on se dit,
c'est
ok,
du feedback.
C'est pas optimal.
Il y a pas besoin de tout optimiser.
Mais là, c'est l'esprit de producteur qui prend le pas, c'est pas l'esprit de l'artiste, tu vois.
Est-ce qu'on passerait pas à une troisième et dernière partie du podcast?
Ouais.
Sur l'aspect un peu plus mener sa carrière, s'entourer, notamment peut-être comme point de départ, parce que je pense que c'est assez représentatif des problématiques auxquelles peuvent se heurter des artistes émergents, bah, c'est que vous avez été accompagné par un label et puis finalement vous vous êtes dit ça nous va pas. Tu commençais à l'évoquer tout à l'heure, Fellure.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu juste de cette expérience? Pourquoi? Qu'est-ce que vous en avez retiré?
Carrément.
Nommer personne.
Évidemment. Ouais, on va pas se faire d'amis.
Ouais.
Mais en vrai, on en a retiré énormément de trucs. Hein. Ça a été un pont vers la professionnalisation exceptionnelle.
Déjà en amont, c'était une volonté. Vous vous disiez, il nous faut un label. Vous vouliez être accompagné par un label.
En fait, ça a commencé. C'est une bonne chose, en tant que tel. On faisait un clip. On faisait un clip. On avait un manager. On a dit, maintenant, ça suffit, là. Tu vas nous trouver de l'oseille. Faut qu'on fasse le clip. Donc, tu vas nous trouver des thunes. Là, nous, on a une actrice qui a un peu de fame, qui veut venir jouer dans notre clip. On a une équipe, on a un lieu. Mais tu vas nous trouver de la moula, bordel. tu as trouvé des gars. Donc, il est revenu 2 jours plus tard. Il a dit, j'ai trouvé un éditeur. Vous avez signé en édition. On va déposer le projet et il met un petit billet pour payer le pucli. Et ce gars-là, on lui a proposé des maquettes et il a dit, venez, je produis le prochain projet et ceux d'après aussi. Et donc, ça s'est fait comme ça de fil en aiguille. Et en vrai, nous, Antoine et moi, on taffe. Andrew, il est auto-entrepreneur, donc il n'y a pas de certitude dans les revenus d'oseille. Ouais. Y a un gars qui arrive et qui dit, en fait, quand vous allez en studio, vous allez prendre un cachet, puis vous allez prendre une avance, puis les clips, en fait, vous n'allez pas dépenser de thunes. On dit, ouais.
Let's go.
De ouf.
Une semaine et quelques, enfin, même plus, en immersion dans le studio pour juste créer, faire de la musique, avec, en plus, des passionnés de musique, pour le coup, dans le studio où on avait été. Ouais, vraiment, c'était, on a appris tellement de choses. C'était vraiment un studio de baiser de musique. C'était incroyable. Et donc, là, t'en retires une expérience, puis tu vois les échanges de mails avec les partenaires, et du coup, tu dis, ils présentent le projet comme ça. C'est comme ça que nous, derrière, on le présente. Fuller, prof de philo et Andrew Beatboxer. Nous, à la base, c'est pas forcément le truc qu'on a envie de mettre en avant. Ouais. Mais on voit les échanges de mails, on voit ce qui part au distrib, on voit ce qui part à la presse, on voit ce qui part quand il y a des... On se dit, visiblement, il faut que sur l'objet du mail, là, il y a un truc qui te donne envie de l'ouvrir. Donc nous, on reprend ces codes-là. Donc en fait, on en retire toutes ces choses-là qu'aujourd'hui, on réutilise celles qui nous semblent être celles qu'on a envie de réutiliser aussi, tu vois. Il y a des choses où on se dit, on voit l'usage, mais on a pas envie de ça. Donc, voilà.
Et au final, pourquoi vous êtes dit, c'est pas pour nous?
Parce qu'en fait, dans la situation dans laquelle on était, je pense on a eu l'impression d'avoir les désavantages des gros labels. Et aucun désavantage. Il y a que personne nous a mis sur Citadium, quoi, tu vois. Personne nous a mis sur Citadium. Et ceci dit, justement, on avait l'impression, mais c'est dans les relations humaines, on avait l'impression de manquer d'accompagnement, quoi, de travailler énormément. En fait, de travailler comme si on était toujours en indé. Sauf qu'en fait, les streams, il y a 75% qui revenaient au label. Et on est là, on dit, mais attends.
C'est quoi l'intérêt pour nous?
Ça se fait que je travaille autant qu'avant, mais qu'en fait, j'ai pas forcément beaucoup plus de moyens, que quand on parle de retourner en studio après le premier projet, ça parle un peu chinois, et donc, dans les relations humaines, des trucs qu'on pas collé, où je pense, nous, on avait besoin d'être plus écoutés,
En plus, on commençait à monter les vidéos à ce moment-là. Donc, c'était le début, c'était très long à faire au début, les vidéos, et nous, on était là en mode, est-ce qu'on pourrait avoir besoin d'aide? Parce qu'en fait, il y a du mix, du montage, de l'étalonnage, sortir la vidéo, l'écrire, faire la prod. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu d'aide? Et en fait, forcément, c'est des gens qui font la musique depuis très longtemps, qui sont pas habitués à ce mode de production de la musique et aux réseaux sociaux.
Un peu hybride.
Et donc, ils sont un peu en mode, c'est les réseaux sociaux, fais ton truc, ça va marcher, tu vois.
Ouais.
Allez. Et en fait,
peut-être pas le bon label aussi.
Ouais, hein.
Donc, peut-être. Mais on comprend aussi que ce soit difficile à percevoir, tu vois, ce truc-là. Et du coup, on s'est dit, visiblement, on peut pas, comme dit Fellure, ça marche pas dans la communication.
Et puis, il y a des trucs, Andrew, il a fait les covers des singles, quoi. Et là, on dit,
ils ont même pas de graphiste.
On s'excuse auprès de tous ceux qui ont eu à faire.
Tu vois, nous, on veut bien les faire, dans le sens, on est chaud de taffer, mais dans ce cas, on rediscute les contrats, quoi.
On fait tout nous-mêmes, quoi.
Ouais, c'est qu'en fait, si on fait tout, mais juste ce que tu fais, c'est mettre de l'oseille. C'est pas 75-25, quoi. C'est à minima 50. On est en collaborateur. Alors que là, il y avait ce truc de, on produit de la musique pour quelqu'un. En fait, les bandes, elles nous appartiennent pas, quoi. Il y a aussi ce truc-là de se dire, tu produis de la musique, c'est pas à toi. C'est pas à toi. Si le gars, il décide que ça sort pas, ça sort pas.
Ouais.
Et si le gars, il décide de le retirer du marché, il le retire du marché, tu vois. Et t'as aucun recours. C'est même pas qu'il y a une, c'est juste, tu dois attendre 5 ans avant de pouvoir les réenregistrer. T'as quand même un recours parce qu'il y a, t'as quand même une propriété intellectuelle, mais il y avait aussi ce truc-là de dire on est employé en fait, tu vois, et le projet il est sorti, c'est bon, vous avez été payé les gars, on vous a payé vos heures de studio, on vous a payé vos minutes enregistrées en studio, on vous a donné une avance, c'est bon, après tu vois, il y avait un truc où tu te sens un petit peu dépossédé, de
prisonnier du truc, quoi.
Et c'est pas contre ces gars-là en particulier, je pense que c'est le
système
qui veut ça, et
après
tu sais pourquoi tu signes.
Et après, je pense que dans certains cas, c'est aussi, enfin, ce que tu disais tout à l'heure, ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux trouver une niche, être rentable, tourner, ou si tu veux en fait faire une émission Netflix et être un juge dans une émission Netflix, bah c'est pas la même logique. Ouais. Et SCH, il est toujours signé. S'il est signé, c'est qu'il y a de bonnes raisons en fait. C'est que ça lui permet de se décharger d'énormément de trucs et d'accéder à une diffusion médiatique, à une certaine scène, à qu'il aurait peut-être pas s'il était en full indé, même à son niveau. Et donc, ouais. Donc quand tu vois qu'il y a des gars de ce niveau-là et qui a priori ont cette oseille-là à disposition, qui sont toujours signés, c'est que la structure, elle doit avoir un intérêt pour certains.
De toute façon, c'est un discours auquel je tiens, on répète régulièrement dans le podcast et dans mes autres émissions d'ailleurs, c'est de dire le modèle indépendant est extrêmement intéressant. Même certainement, si vous voulez toucher un peu le revenu de votre travail, c'est le plus intéressant. Ne diabolisons pas non plus les différents intermédiaires qui peuvent exister, les différents partenaires.
Non.
Ils peuvent être utiles, on a besoin d'apprendre des choses, on a droit d'être entouré. Il faut juste évidemment faire attention avec qui on signe, quoi, etc., bien entendu. Ça, bien mais on a besoin aussi des
c'est
autres.
C'est le disclaimer pour dire ça, salut les majors. Je comprends.
Je comprends. Je ne parle même pas de major. Ouais.
Vous savez, on a besoin de la police et des contrôleurs RATP. Je veux dire, ils sont là aussi, les huissiers de justice, c'est important.
Mais vive la police!
Mais oui! Je sais pas si ça va être gardé, ça. Mais...
On n'a pas dit ça, nous.
Non, mais oui, le modèle, enfin, il y en a pour tous les goûts. Après, effectivement, c'est plus une question de mindset et effectivement, si tu te retrouves à bosser dans une entreprise, mais t'as ni le CE, ni la cantoche, tu te dis pourquoi je suis là, en fait? Autant que je bosse de chez moi, tu vois.
Bah ouais.
Bon, il y a peut-être d'autres attraits, hein.
Mais tu te retrouves aussi à bosser, enfin, je sais pas, on peut même pas quantifier les horaires de travail qu'on fait, là. Mais en fait, les faire, pour nous, ça va. Bosser, je sais pas, 60 heures par semaine pour nous, bah ça va, on le fait pour nous, c'est nous deux. Bosser 60 heures par semaine, pour et il y a quelqu'un d'autre derrière, là.
Ah ouais, là, et si demain ça pète, je prends 25% des mois, t'es là, tu fais, ouais, et puis 12,5 du coup. C'est pas 25 chacun, si tu prends.
Et même si c'est légitime parce qu'il a investi sur toi, ça met une tension quand même. Ouais. Putain, je bosse tout le temps, j'en peux plus, je suis fatigué, ouais, c'est pas pour moi. Tu vois, et donc en fait, il y a aussi ce truc de s'alléger, c'est-à-dire en fait, le travail qu'on fait là, il est pour nous. On donne ce qu'on peut. Et...
Sachant aussi, toujours dans une optique un peu pédagogique, c'est qu'il y a différentes modalités, différents contrats qui existent, et on peut bosser aussi uniquement sur la distribution, par exemple, avec un partenaire, tout en étant propriétaire des masters.
Ouais, ça, on a un contrat de distrib. On a un distrib qui du coup, défend les singles devant les plateformes de stream. Mais il n'y a pas ce truc de... le producteur, on disait un petit peu, enfin, du coup, t'es le petit, quoi. Ouais. C'est ton grand, c'est lui qui
va me chercher ma canette.
Va me chercher ma canette et sors-toi les doigts du cul, tu vois. Et tu te dis, mais attends, je me lève tous les putains de matin pour aller taffer, tu me dis que j'ai les doigts dans le cul. C'est quoi cette histoire? C'est pas les miens, déjà. Tu vois, mais du coup ça c'est un peu agaçant, quoi. Ça met sous tension
et en plus tu gardes quand même en tête le truc que il a misé sur toi, tu vois, donc en fait il y a une espèce de tension qui s'installe aussi en toi, de reconnaissance vs l'énervement que tu peux avoir, qui est pas sain du tout, et pour toi et pour les membres de l'équipe qui bossent avec toi, qui ont aussi le droit à leur dû, tu vois. Donc en fait c'est vraiment, il faut vraiment en remettre. Je crois que le principal, c'est qu'il faut remettre de l'humain dans ce truc.
Ouais.
En fait, c'est ça.
C'est vrai, ce que tu disais en off, en fait, et ce qu'on disait, ce qu'on évoquait avant sur la confiance et arriver à ce juste milieu où, en fait, c'est du biz, on passe des contrats, mais en fait, l'intérêt dans le fait d'être entouré, je crois, dans la musique, c'est les conseils, c'est les gars qui te disent, ouais, bah, en fait, là, je pense que ça pourrait être mieux fait, ça pourrait être mieux organisé. Mmh. Et c'est du biz. C'est-à-dire que les gars vont être payés, il y a des droits, il y a des machins, mais on est quand même dans une, je pense, c'est un truc sur lequel on prend pas mal modèle, c'est on avait beaucoup kiffé le Xelodoc. De Vald, où en fait, les gars, c'est du biz, tout le monde est payé, tout le monde prend un cachet, il y a des contrats qui sont clairs et nets, que nous on voit pas, mais qui sont signés, mais ils sont là, et en fait, c'est un groupe de strap, quoi. En fait, c'est des gars, ils sont dans une vacance, mais c'est quand même du biz. Et nous, c'est un peu ce qui nous a fait défaut, je pense. On a eu l'impression de pas avoir cette relation humaine avec les gars, où on se sentait en confiance et on se sentait écouté, on se sentait aimé pour ce qu'on était, on se sentait l'impression d'être que dans du biz et un biz pas rentable.
Il y a un élément aussi là-dessus, et je pense que ça va te parler d'as de ouf, c'est que parfois, petit truc comme ça, petite réflexion au passage, parfois on veut à tout prix, lorsqu'on est émergent, se greffer à une structure déjà existante, déjà installée. Et avoir la reconnaissance de cette structure, c'est toujours extrêmement compliqué quand on n'est pas à l'origine et quand tu te greffes au truc. Si t'as la possibilité d'être entouré par des gens qui sont à peu près au même niveau que toi, mais qui sont ultra compétents, et que tu peux te créer ta team qui va grimper avec toi, ouais. Là, en termes de confiance, de reconnaissance, d'échange, bah ouais. etc., c'est autre chose.
Ah ouais, de ouf.
Bah surtout qu'il y a, enfin, le rap, c'est ça, quoi. C'est des équipes, c'est des crews, c'est des possis, tu vois, à l'époque. Possis. Et donc, t'as ce côté aussi de faire monter tout le monde, et de travailler en team, et, pour le meilleur et pour le pire, hein. Moi, je pense qu'il y a énormément de rappeurs, en fait. C'est parce que leur entourage leur a gonflé le cul en leur disant qu'ils étaient bons, qu'ils sont allés au bout et ils auraient pas dû. voilà. Je citerai pas de nom de Mafia Kinfri. Oh, en plus, je suis du 9-4, donc je respecte. Mais dans la Mafia Kinfri, tout le monde était pas Kerry James ou Rof, tu vois. Et c'était les potes.
Mais peut-être qu'ils apportaient des trucs, on sait pas, à côté, tu vois.
Une énergie.
Ouais, mais bien sûr. Bah, un Mokobé, par exemple. Qu'est-ce qu'il fout?
Ah, ça dénonce carrément.
Bah oui, non,
mais respect Mokobé.
Mais non, mais
viens dans notre émission.
Non, mais en plus pour de vrai, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour toute la Mafia Kinfri, etc. Mais tu sens ces logiques de quartier, tu sais, dans tous les groupes, t'avais toujours ouais bah lui c'était le grand, lui c'était machin, tu vois. Tu prends un groupe comme 13 Blocs, ouais. Tu sais que c'est le grand du Tiekar qui était là, tu le sais. Parce qu'il est moins bon que les autres. Mais il est là. Et franchement, il tient son truc. Et au final, il s'améliore, tu vois. Mais tu sais que lui, à la base, c'était pas le meilleur des kickers, tu vois. Mais il était là. Vas-y, il fait partie de l'équipe. Et en fait, on le pousse, tu vois. Et, bah, des fois, ça prend et le mec s'améliore. Des fois, ça prend pas. Il est toujours pété. Mais je trouve ça cool, en fait, de ce truc-là, de se dire, hey, on vit ensemble, on meurt ensemble, en fait, tu vois. Ouais. Et après, bon, bah, tous les collectifs, généralement, explosent. Mais, ce côté, on y va tous, les gars, let's go. Ben, ça, c'est vrai.
Souvent, c'est vrai.
C'est vrai que les collectifs, à un moment donné, t'en as toujours un qui fait, mais attends.
Après,
est-ce que je me ferais pas t-shirt quand même?
Pourquoi?
Après, c'est, est-ce que parce que les collectifs sont passés de mode aussi. Les groupes, même d'ailleurs, de manière générale, dans le rap, sont passés de mode.
Ils sont revenus un peu.
Ça revient un peu, c'est plus des figures individuelles, je trouve, quand même.
Non, bah, justement, t'as 13 blocs, les mecs, ils sont 4.
Tu sais, avec 4 blocs. Et puis le retour, c'était un petit moment maintenant, mais le retour de l'entourage, un 9-5.
Ouais, mais en vrai.
Les tontons flingueurs.
On voit que Panama Bende et tout ça, mais ça fait plusieurs années quand même.
Et on voit très vite quand même que dans le cas de l'entourage, par exemple, enfin de 1993, ça c'est 1995, pardon, c'est 1993. Ça a tout de suite splitté assez vite. Ouais. Et qu'aujourd'hui, ça met en avant
très polarisante, c'est sûr. Ouais.
C'est qu'il y avait des gars dont personne se souvient et un gars qui est devenu un des plus gros vendeurs de.
Ah ouais,
de
dans le même groupe, t'as Nekfeu et Funky Flav.
Ouais, c'est les deux auxquels je pense.
Funky Flav, manager de PLK.
Ouais.
Bah, il a fondeur de Panama Bende.
Ouais, en plus.
Pas de Panama Bende.
Mais en fait, c'est un mec. Je pense que c'est typiquement le genre de gars sans qui rien n'est possible.
Ouais.
Tu vois, mais qui doit pas capter la lumière. Et t'as des mecs qui servent de lien en fait entre différentes entités, machin, etc. Et je sais que Funky Flav était à la création du de 1995. Ouais. C'était vraiment le gars qui a mis tout le monde en relation. Mm-hmm. Sauf que après, quand sur un plan purement artistique, bah tu fais ouais quand même Nekfeu Alpha One, les mecs, faut s'accrocher derrière quand même, tu vois. Enfin, quand t'as ces deux là dans le groupe.
Déjà quand ils étaient ensemble.
Ouais. Moi perso, j'aurais été dans ce groupe là, j'aurais fait c'est chaud en fait, en duo, en fait, parce que voilà. Et tu vois, tu parlais des tontons flingueurs, c'est la même chose.
Ouais.
Ils étaient combien? Ils étaient 9 les mecs.
Ouais.
Tu vois, Panama Bende, c'est pareil. Et en fait, il y en a combien qui sont encore là aujourd'hui? Panama Bende,
t'as c'est que le... Ouais, pardon,
t'as le petit...
T'as PLK,
t'as... Bah,
t'as l'ESRAM.
L'ESRAM,
il est dans les deux, je crois. Il est dans les deux, il est dans les deux.
Je pensais sur la Panama Bende, le gars qui était le plus mis en avant quand ils ont marché un petit peu, c'était Aladdin 135, qui avait fait les clips où Nekfeu, Giorgio était apparu dedans. En fait, c'est pas celui qui a pété, tu vois. Celui qui a pété vraiment, c'est PLK. Ouais. Et donc, c'est marrant aussi de voir que dans le groupe, c'est pas forcément celui qui a forcément le plus de fame au début qui va.
Puis quand même, vous me parlez de crew à chaque fois où très vite ça s'individualise. Alors que moi, je parle d'une époque, en fait, où t'avais des groupes qui faisaient toute leur carrière ensemble. Et tu vois.
C'est très rare, en fait. Quand tu penses à des collectifs, même genre Rap US, etc., honnêtement, à part le Wu-Tang,
Ouais.
Et je pense que c'est parce que Reza, en fait, il avait les clés de tout le monde et tu pouvais aller nulle part sans lui. Franchement, enfin, il y avait pas beaucoup
En France, je trouve quand même qu'on a été marqué par les groupes.
Ouais, ah bah on a été marqué.
Bah ouais, mais en fait, franchement, des groupes de deux, tu vois.
Non.
En fait, dès que tu commences à être plus de deux rappeurs, c'est compliqué, hein, vraiment. C'est pour ça que moi, je voyais ces groupes-là, LTF, Panama Bende, même l'entourage, je me dis, waouh, les mecs, ils sont 12.
Ouais.
Ça peut pas marcher. C'est avec l'oseille qu'il y a. Tu vois, dans ce milieu-là, en France, la taille du marché et tout, ça ne peut pas fonctionner. Tu peux pas faire le Wu-Tang en France. C'est pas possible, en fait. Parce que le Wu-Tang, c'était les Avengers, tu vois.
Qui serait le Wu-Tang français?
Eh ben, tu sais quoi? Alors, blague.
Ah, attention.
Blague. Au début, moi, j'avais dit Section d'Assaut, mais c'était tout au début. Oh. Et après, j'en suis revenu. Mais au début, j'ai vu un groupe arriver. Les mecs, ils avaient chacun une personnalité, un flow, un style, tu les reconnaissais quand ils passaient au micro et tu fais ah ouais, ah lui c'est lui machin, ça me faisait penser à Raekwon, Ghostface.
Mais des trucs anciens. X-Men ?
Ben non, parce que X-Men c'est pareil. Moi je suis dans X-Men, je suis Cassidy. En fait, le problème, c'est que Cassidy, il est bon, mais il a un niveau tellement stellaire que tu
dis. Ah, ok, bah, toi, tu cherches un peu là. Il faut que ce soit.
Faut que ça soit homogène.
Ok. Ouais, okay.
Et même dans le Wu-Tang, bon, il y avait You God ou Mastakila. Miskin, ok. Mais tu vois, Raekwon, Ghostface, Method, ODB, Inspecta Deck, ils étaient tous. Ils étaient tous très forts, ouais, en fait, tu vois. Et en fait, des groupes avec ce niveau de personnalité, non, ce talent-là, qui tiennent, France. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas en France. Mmh.
Eh ben écoutez, refaisons un podcast. J'en ai les gars, c'est le Wu-Tang français.
Même, tu vois, un collectif comme ATK, tu vois, il y avait des personnalités. Déjà, c'était des groupes qui se sont mis ensemble, mais c'était que des duos à la base, tu vois. C'était les mecs qui étaient tous vénères de pas être dans Time Bomb, donc ils avaient le seum. Ça leur a donné une énergie supplémentaire, tu vois. Mais tu vois, même un collectif comme Time Bomb, ça a explosé parce que ça pouvait pas tenir.
Et en vrai, le Wu-Tang français, bon... on espère pouvoir les recevoir. Donc si c'est... tu dis pas que c'est pas le Wu-Tang français et tout. Les sages peaux, c'est pas mal quand même.
Mais ils sont frères.
Oui. Oui.
Plus Danny Dan. Et Danny Dan, c'est, à mon sens, un des meilleurs rappeurs au monde, tu vois.
Avec Akhenaton, c'est le, pour moi, c'est ce qui s'est fait le mieux.
Bah ouais, mais du coup.
Mais c'était quand même relativement.
Ils étaient que trois.
Mais c'était relativement homogène.
Je pense que vraiment, la masse critique pour un groupe de rap, c'est quatre rappeurs. Après, ça devient le bordel.
Ouais, ça devient compliqué. Et puis même pour aller sur scène. Enfin, il y a un moment où, c'est-à-dire que quand t'es à 9 et que tu montes sur scène à 9, bah, faut faire un 9 caché.
Concert de la mafia Cafri.
Ouais.
C'était les seuls concerts où tu pouvais à la fois kiffer les artistes et te faire dépouiller par d'autres artistes dans le même concert. Tu vois, c'était incroyable. Tu te prenais des coups de pied dans la gueule, tu comprenais pas. On te dit, ah ouais, mais lui, c'est un tel, il est dans tel. Ah ouais, bon, bah, ça va alors. Je vais en prendre de la Timberland, mais ça passe. Non, mais, enfin, tu sais, les concerts où la mafia Kinfry, t'allais voir en concert, il y avait 30 mecs sur scène. Des fois, il y avait 3 rappeurs. Les autres, ils étaient là parce que, je sais pas, le minibus, il était passé. Vas-y, viens, on va faire un concert, on va faire l'Olympia et tout. Mais même ce collectif-là, qui pourtant était issu de gens très soudés, qui avaient grandi ensemble, etc., ça a fini par péter. Parce que tu peux pas, quand tout le monde, enfin, tu vois, on dit la marée, elle monte pour tous les bateaux. Mais à un moment donné, quand t'as un Kerry James ou un Roth qui explose, quand toi, t'es Carlito ou je sais même pas quel autre rappeur je pourrais dire, tu vois. Tu te dis... alors après, peut-être qu'ils étaient pas prêts au même sacrifice aussi, etc. Tu vois, parce que...
Oui, il y a aussi ça. Il y a des visions différentes aussi de vie.
Mais clairement, tu sentais quand même que c'était une machine qui était tirée par 2 ou 3 leaders, et puis les autres étaient derrière, c'était leur entourage.
Comme tu disais, t'as besoin des autres gars. Moi, je repense à Nekfeu qui disait ça sur l'entourage, qui parlait de FG. FG qui avait été en réalité un peu moqué sur les réseaux.
Tout
parce
le temps.
Que, parce
tout
que
le temps.
Décalage, parce que grosse
phobie. Il raffait pas dans les temps.
Et parce que en effet, voilà, il était peut-être pas au niveau des autres.
Ouais.
Qui lui-même, là, on avait fait des blagues dans des sons.
Ouais,
Nekfeu, il disait, mais c'est sans lui, il n'y a pas de concert. C'est lui qui vient nous réveiller, qui vient nous réveiller, qui nous sort du lit, c'est lui qui branche les salles, c'est lui qui fait ça, et dire c'est un moteur, c'est le ciment,
Après la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut faire chanter le ciment? Bon, tu vois, est-ce que le ciment il devrait pas juste cimenter?
Non, il a besoin d'un peu de reconnaissance aussi, d'être un peu dans la lumière, il kiffe.
Bon. Et là on en revient au truc du départ qui est de dire peut-être que si on lui avait dit qu'il était éclaté en studio. Tu vois, il aurait pas eu la prétention de « Ouais, mais moi aussi, je vais faire mon projet. » Et là, tu vois, c'est l'honnêteté aussi des potes de dire « Frérot, c'est compliqué. »
Ouais, ou alors de
faire croquer. Tu veux pas faire un feat, juste un feat. Tu vois, et c'est normal. Quand toi, t'es entouré de mecs qui ont une énergie et qui ont un talent, tu te dis « Bah, moi aussi. » Et en fait, la vie, elle te dit « Bah non, pas toi. » C'est comme ça, tu vois. Faut l'accepter. Faut l'accepter. Mais oui, en fait... C'était Fred Rec qui disait ça, donc un mec qui avait produit pour notamment le Dog Pound, Snoop, etc., et qui avait dit, il y a pas longtemps sur Twitter, il a dit « Je regrette l'époque où quand tu savais pas rapper, tu rappais pas. » Tu vois. Et oui, en fait, c'est vrai que à vouloir emmener tout le monde, des fois, tu peux diluer le talent, tu vois, et tu peux faire perdre du temps aux autres. En fait, c'est ça le truc. Et moi, FJ, perso, j'aime bien. Tu vois, comme quoi, je me suis habitué au petit rap.
C'est ça, en fait. Du coup, ça veut dire que il faut peut-être aussi faire son truc, même quand tu vois, au final, tu peux réussir à imposer. On en revient à cette phrase de tout à l'heure. En fait, fais ton truc jusqu'à ce que les gens aiment.
Tu
vois.
Tu regardes un gars qui, il va diviser dans le monde du rap. Il est pas vraiment, il est pas du tout street. Donc, aujourd'hui, je sais pas si on le classe encore dans le rap, mais t'écoutes le premier son de L'Homme Pâle. Ouais. J'ai rarement écouté des trucs plus éclatés au sol. Là, avec Nekfeu, j'ai rarement.
Ouais, sur le toit, là.
Ah, sur le toit, je me rappelle, avec la veste de Phoenix Suns.
C'est une grosse merde. Ouais. Mais pourtant, par contre, on peut pas douter de la qualité musicale de ces deux derniers projets. En fait, c'est incontestable. Tu peux aimer, ne pas aimer, tu peux trouver les textes ceci, cela. Ça peut te plaire.
Non, il y a une évolution, je suis d'accord.
Ah ouais. Rien à dire. En
fait, même Majesté.
Je me suis refait il y a pas longtemps, je me suis refait Flip il y a pas longtemps et c'est pas ma cam. Ouais. C'est pas ce que je vais écouter. Moi, à titre personnel, ce qu'il raconte, ça va pas forcément me toucher. Mais frérot, il y a trop de taf, c'est trop carré. Ouais. Et quand tu vois l'évolution du gars, moi, je peux qu'avoir du respect en fait pour ça. Ouais. Alors que je l'écoute au début, je me dis mais c'est de la bonne merde. C'est vraiment nul.
Et ça marchera jamais.
Ça marchera jamais. Et tu vois, j'écoute Flip, j'écoute Janine, je dis oh j'ai du boulot. J'ai du boulot. Je vais retourner ta fête, tu vois, parce qu'il y a des gars qui ont progressé, tu vois.
Ok, donc il faut ça. C'est un formidable message d'ouverture. C'est-à-dire que si t'es éclaté, c'est pas forcément définitif.
C'est vrai.
Et c'est vrai que c'est bien.
Ah ouais.
Bah ouais, c'est ça.
Ah, je crois qu'on est tous éclatés au début, hein, quand tu commences. Après, est-ce que t'es obligé de le partager tout de suite?
Ouais, c'est ça, il y en a qui partagent. Tu vois, voilà.
Moi,
c'est ça.
Je le vois, bah, pareil, dans le beatbox.
En même temps, le partager, c'est le meilleur moyen d'évoluer.
Oui et non, parce que ça peut aussi te décourager. Tu vois. Moi, je vois mes élèves, ils me disent, ouais, mais en fait, je fais du beatbox dans mes potes et ils se moquent. Et du coup, j'ai envie d'arrêter. Tu vois, et si t'as pas un accompagnement, bah, tu t'arrêtes. Alors que, reste un peu en soum-soum, tu vois, fais ton truc, et puis au bout d'un moment, quand tu sens que ça devient écoutable, tu montes à ton cercle très proche, qui seront bienveillants avec toi. Quand tu sens que c'est un peu validé et qu'ils sont pas juste en mode, oui, c'est bien. Quand tu sens que c'est vraiment validé, tu agrandis ce cercle, tu vois. Mais il faut y aller petit à petit et pas espérer que les gens bougent la tête,
dès le départ,
que t'as pas conscience de ce que c'est que le tempo, tu vois. Mais c'est vrai.
Ça peut marcher.
Bien sûr.
Sait-on jamais.
Mais.
Sur un malentendu.
Mais, tout le monde, en vrai. Enfin, je crois que tout le monde peut y arriver. Juste, il faut.
Mais dans Nouvelle École, il y a ça, justement. À un moment, ils montrent les premiers sons. Alors, c'est pas vraiment leurs premiers sons, mais ils montrent les premiers trucs internet de Chat et de Niska et de SCH. Et Niska, ils disent, SCH, ça va, parce que c'est pas ses premiers trucs, mais c'est un freestyle qui avait bien marché. Et Niska, ils lui disent, on t'aurait pas pris. Ils disent, on t'aurait pas pris. Les deux, ils sont là, ils disent, moi, j'ai vu cet extrait sur les réseaux. Ils disent, on t'aurait pas pris, frérot. Et ils disent en même temps, mais c'est justement positif, témoin. T'es multidiamanteur. Multidiamanteur. Tu vois, tout le monde connaît certains de tes sons. Mais pourtant, quand t'as 18 ans et que tu sors ton freestyle où tu fais le mec énervé, mais que tu maîtrises pas bien ton truc, on te calcule pas, quoi.
Ouais,
et donc c'est ultra encourageant, en vrai.
Je trouve que c'est une belle morale pour terminer.
Formidable message d'espoir.
Absolument. On était un peu dans les digressions à la fin, mais c'était très intéressant.
Désolé, je suis MC digression.
Non, mais écoute, j'apprends. Moi aussi, tu vois, je suis un peu éclaté dans la gestion de DAZ. Mais je vais apprendre et je vais essayer la vie. Ok, bon, merci beaucoup.
Merci à vous.
De voir.
C'était super cool.
C'était super intéressant, super cool. Belle expérience de le partager comme ça, votre vécu et tout. C'était super intéressant. On fait un peu moins de choses avec les artistes émergents en général dans cette émission. Donc, c'était aussi enrichissant d'apprendre tout ça. Où est-ce qu'on peut retrouver votre travail? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Peut-être sur les réseaux, je sais pas.
Spotify, ouais, Apple Spotify. Music, Deezer.
Okay.
Et après, si vous voulez, Insta, TikTok.
Pour les concerts.
Ouais.
Snap ou pas? Non.
Non.
Non, encore. Snap, pas du tout.
Très bien. Pas de
il a fallu choisir aussi à un moment où on allait se positionner. Parce que sinon, en fait, tu peux passer une journée à faire des posts sur les 26 réseaux sociaux que t'animes. Donc tu dis, bon, on va prendre ces deux-là. On va accepter de laisser tomber d'autres alors que ça marche très bien, mais en fait il y a un moment.
Non, c'est bien.
Mais en prio Deezer, Spotify, Apple Music, notre mixtape sur notre site.
Felurexandro.fr ou
quoi. Parce qu'on a les deux.
Andro, c'est facile. Felur, c'est LHFELHUR. C'est ça, je crois.
FELHUR.
Comme Félix Fureau, en fait. Comme mon nom et mon prénom.
Ah! Ouais!
Exclusive! Alors attends, Andro, Antoine.
Non, pas du tout.
Ça marche pas, merde!
Dommage.
Allez, voilà, bonne soirée.
Ça aurait été beau. Hein.
Non, c'est
ça
vraiment un pseudo de gaming de jeunesse. Et après, quand tu fais du beatbox, tu te retrouves sur des serveurs vocaux sur TeamSpeak.
Tu
parles entre eux. Donc j'avais gardé mon pseudo de gamer avec les jeux vidéo.
Heureusement, c'était pas Neo Angel.
À la base, il était vraiment fiché à mon nom et je l'ai raccourci parce que vraiment, il était terrible.
Andromeda.
On n'est pas loin. On n'est pas loin du tout. Et j'ai regardé Andro et mes potes proches savent ce que c'est. Et ils hésitent pas à me le rappeler en concert souvent. Mais du coup, non, aucun rapport avec. Okay. J'avais 12 ans.
Daz, si on veut te trouver sur Internet, qu'est-ce que tu veux mettre en avant?
Les podcasts de qualité avec un R, qualitaire, Six and Daz Californie, évidemment. Après, si vous êtes sur Twitter, je me bastonne sur Twitter.
Il est terrible.
JDM.
Elle est
ouais, je, je suis bah, j'ai un modèle américain maintenant.
Okay.
C'est David Simon qui est le gars qui a écrit The Wire. Ouais. Donc déjà ça pose le mec et en fait lui, il allume des gars qui ont un abonné, donc j'ai dit moi aussi
incroyable.
Je peux le faire. Si lui le fait, moi je peux y aller. Voilà, donc Das JDM sur tous les réseaux, Insta, Twitch, Twitter. N'hésitez pas à vous abonner.
Yes.
Et même ici, tapez la cloche là. C'est ça.
Ah bah attends, mais oui, la cloche, abonnement évidemment. Ah, suivez-nous si vous êtes sur YouTube comme ça. En si c'est sur un podcast, c'est quoi? C'est un peu toujours les 4 étoiles et tout. C'est comme on peut dire les étoiles.
Ouais,
c'est un peu
placé de mal les étoiles. Des avis 5 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles.
Ah oui, c'est 5 étoiles le maximum.
Je crois que c'est 5
étoiles, pardon.
Alors moi justement, je ne suis pas à la course aux avis positifs.
Ils nous en mettent une.
Si vous dites que c'est éclaté, dites-le. Après moi, je le mettrai sur Twitter et je me foutrai de.
Capitalise-le.
Incroyable.
Et oui, et aller écouter les podcasts qualité, c'est
bien sûr, bien sûr.
C'est très très bien.
Voilà.
Bah écoutez,
merci beaucoup de nous avoir reçus.
S Ottoman évidemment de nous soutenir pour cette émission. Merci à la Bouclette aussi qui gère toute la technique.
Super,
ils sont incroyables,
endroit.
Ils sont beaux, ils sont gentils, ils sont compétents.
L'endroit est magnifique.
Un petit merci à Nala aussi qui a permis la mise en contact.
La frérotte sûre.
Et puis
grosse force sur Nala.
On se retrouve dans 15 jours.
Let's go.
Et ben on refait ça. À plus tout le monde.
Salut.
Ciao.
Ciao.